Parfait, bonjour, bonsoir à tout le monde. Donc, nous allons commencer la table ronde sur le réseau d'électricité intelligent et connecté. Donc, on va peut-être faire. On est trois animateurs, enfin, ou trois. Il y aura deux autres personnes qui feront aussi la présentation même après. Donc, ce qu'on propose, c'est de faire une petite introduction par rapport à nos spécialités, par rapport à notre approche sur ces réseaux d'électricité intelligents et connectés. Et ensuite, on ouvrira le débat après les présentations. Donc là, on essaie d'ouvrir et de donner un point de vue qui est certes assez large, mais qui permette d'amorcer un débat. Je vais commencer la présentation sur ce thème-là, les réseaux d'électricité intelligents et connectés. Je suis Jean-Paul Gobert, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Poitiers. J'ai deux aspects, un aspect enseignement sur le génie électrique, réseau, enfin tout ce qui est énergie renouvelable au niveau de l'IUT de Poitiers, au département de génie électrique et industriel, enfin informatique industrielle, et puis aussi à l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Poitiers dans une option qu'on appelle maîtrise de l'énergie électrique. Et je suis enseignant, et donc pour la partie enseignement et pour la partie recherche, ça concerne le laboratoire d'informatique et d'automatique pour les systèmes, le LIAS, qui est logé donc au niveau de l'école d'ingénieurs. Alors, juste pour. Voilà, c'est parfait. Au niveau recherche, ce qu'on fait pour donner une ordre d'idée en fait, de la partie de laboratoire, on est à peu près une quarantaine d'enseignants-chercheurs, une quarantaine de doctorants. On est séparés au niveau de laboratoire en trois entités, enfin trois équipes, une équipe automatique et système dont je fais partie, une équipe ingénierie des données et des modèles et une équipe modélisation des systèmes embarqués en temps réel, donc qui appartiennent, enfin qui sont supportés par l'École supérieure d'ingénieurs de mécanique et d'aéronautique de Futuroscope. Et pour revenir ici, donc là j'anime au sein du groupe Automatique et Systèmes une équipe d'enseignants-chercheurs qui traite en gros de tout ce qui est gestion des énergies renouvelables et des réseaux intelligents. Donc c'est un peu l'objet de mon intervention et puis de mes recherches. Alors si on regarde un peu, j'anime ce groupe, si on fait le bilan et là on va toucher en gros à tout ce qui est le traitement de l'énergie électrique. Alors, bien évidemment, on commence par ce qui est les réseaux. Alors, les réseaux, mais ça veut dire qu'on fait de la modélisation du réseau, on fait de la surveillance du réseau électrique. Donc, si on fait de la surveillance, on va aller jusqu'à l'identification de sources polluantes. Et puis après, quand on construit des chaînes de conversion ou d'énergétique, on fait de l'optimisation multicritère pour connaître le dimensionnement et puis les besoins d'un système. On fait bien évidemment de la gestion des flux d'énergie, donc on peut le voir ça au niveau d'un réseau électrique, mais aussi dans des entités plus petites. Et bien évidemment, on a besoin de convertisseurs de puissance pour transférer l'énergie électrique ou la transformer en d'une forme d'onde à une autre forme d'onde plus adéquate à l'utilisation entre la production et l'utilisation. Et puis après, on a une partie, je dirais, supervision automatique, une partie informatique et communication. Et puis, il ne faut pas oublier, j'y reviendrai à la fin de mon intervention sur les usages, puisque quand même, dans la plupart du cas, on a quand même un utilisateur final qui doit utiliser et prendre en compte l'ensemble de ces aspects. Donc voilà à peu près, je dirais, synthétiser les actions que l'on conduit au niveau du groupe de recherche. Juste pour faire un petit sommaire, donc je vais essayer de regarder rapidement l'évolution des réseaux électriques, la gestion de ces réseaux, l'impact des ENR sur ces réseaux intelligents, quelques points clés pour la réussite, puisque là on est quand même encore, même si c'est bien amorcé, mais on est encore au départ de ces réseaux intelligents. Je vous donnerai quelques focus sur les collaborations industrielles qu'on peut faire avec, je dirais, la transition entre université, recherche universitaire et puis industrielle. J'évoquerai juste rapidement un petit concept sur les micro-réseaux, donc façon l'intégration des énergies renouvelables. Et puis, je donnerai juste une petite dimension sociétale de ces réseaux. Les réflexions qu'on peut avoir sur l'intégration et la mise en œuvre de ces réseaux intelligents. Alors, si on regarde juste le premier point, l'évolution des réseaux électriques, à la base de ces réseaux, on avait l'habitude de les scinder en trois parties distinctes. La première, c'est la production qui était historiquement qui était centralisée et qui est encore énormément centralisée. On a un système de transport de cette énergie et on a un système de distribution. Alors, la distribution, elle se fait bien évidemment à plusieurs niveaux, à l'individu, mais après on a des grands centres, on a des centres urbains, on a des gros consommateurs. Et c'était un transfert d'énergie qui était descendant, unidirectionnel. Et maintenant, on a l'intégration des ENR qui arrivent et qui, elles, sont dispersées et réparties sur le territoire. Et bien évidemment, réparties, connectées un peu à tout niveau et intermittentes. Donc ça, c'est un autre problème à traiter. Et donc, ça change un peu la donne dans nos réseaux, puisque le flux énergétique, maintenant, il est bidirectionnel. Et toutes ces productions dispersées, il doit falloir les intégrer. En tenant compte des caractéristiques et puis des contraintes, puisque un réseau électrique, il a quand même des contraintes assez importantes qu'il faut respecter et conserver. Donc voilà à peu près pour la donne. Et bien évidemment, on peut agir à tous les niveaux, et alors avec plus ou moins de souplesse. Par contre, il faut garder l'équilibre de ce réseau en instantané. Alors, c'est pour ça que dans ces réseaux électriques, on a alors on peut dire une triple révolution, puisqu'on a des apports technologiques, on devient une révolution digitale et donc sociétale. Donc si on peut synthétiser ça, je dirais, sur un système en 3D. Alors pourquoi j'appelle ça en 3D? Puisqu'on a première chose, maintenant on est décentralisé. Alors, décentralisé, parce que en tant que particulier, par exemple, une entité, on peut produire de l'énergie électrique sur une simple toiture de maison avec des panneaux photovoltaïques, par exemple. Donc là, on n'a pas du tout l'aspect unidirectionnel et centralisé qu'on connaissait jusqu'auparavant. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on essaie d'être décarboné. Donc ces nouvelles technologies, alors après, sont théoriquement et en tout cas beaucoup moins émettrices de CO2. Et puis, bien sûr, digitaliser, puisqu'à l'aide de systèmes numériques et de communication, on peut améliorer la conduite, améliorer la visibilité et puis améliorer la partie, je dirais, exploitation de ces réseaux avec une communication et une digitalisation qui est importante. Donc voilà l'idée générale du problème qui est posé et qui est en train de se mettre en place. Alors pour une architecture globale, donc quand on regarde les réseaux électriques, on avait l'habitude de dire, ben voilà, on a jusqu'un cœur de réseau. Ben le cœur de réseau, l'objectif, c'est transporter de l'énergie électrique d'un point de production à un point de consommation, quelle que soit la distance. On doit être donc là, effectivement, le réseau, on avait l'habitude de dire, c'est une onde électrique et on doit transporter de l'énergie électrique. Mais maintenant, on s'aperçoit qu'on a beaucoup d'autres fonctionnalités qui se greffent autour de ce réseau électrique, et c'est ce que j'appellerais, moi, les satellites. Alors, les satellites, ça veut dire qu'on a une obligation sur la qualité de l'énergie, sur la sécurité et la fiabilité. Et puis, on doit intégrer toutes ces énergies renouvelables et à partir de sources réparties qui viennent en interaction avec ce réseau électrique. Et puis, bien évidemment, on a le déploiement de tout ce qui est communication pour essayer de gérer au mieux et d'arriver à maîtriser l'ensemble. Donc, c'est la communication, la gestion des données, la big data, puisque on rentre dans des systèmes de données très importantes, puisqu'un réseau maillé à l'échelle d'un département, à l'échelle d'une région ou d'un pays, ou même d'un continent, c'est quelque chose qui demande beaucoup de données, et il faut arriver à les gérer, à comment les communiquer, comment les traiter. Donc ça fait partie maintenant des défis à mettre en œuvre. Donc voilà pour une architecture globale, une vision de cette architecture de réseau et de configuration à venir. Et ne pas perdre de vue que dans tous ces cas, ces réseaux électriques intelligents plus intelligents, puisqu'ils sont déjà quand même très intelligents, donc on dirait plutôt des smarter grids plutôt que des smart grids, ils doivent dans tous les cas rester flexibles et extensibles, puisque on sait très bien que ce système-là ne peut pas être figé à une configuration, enfin, ou en tout cas dans une configuration donnée. Alors, maintenant, si on veut déployer ce réseau et effectivement intégrer des sources d'énergie renouvelables, alors, a priori, solaire, éolien, qui sont les plus importantes, le souci, c'est qu'elles sont totalement intermittentes et dispersées. Donc, elle pose quand même des problèmes puisque la météo est capricieuse et on n'a pas forcément une projection fiable sur ses productions. Et donc, il faut garantir dans tous les cas les valeurs réglementaires que sont la fréquence et la tension d'un réseau. Donc, ça veut dire l'équilibre de la consommation, l'équilibre consommation-production à tout instant. Rendre les insensibles à certaines instances, donc il faut bien les piloter. Alors, les pilotages, effectivement, est-ce qu'on fait de l'effacement? Est-ce qu'on autorise en permanence la pénétration des énergies renouvelables ou est-ce qu'on doit prendre la main au moment donné? Et puis, bien évidemment, on doit garantir la sécurité et la fiabilité de ces systèmes, quel que soit le niveau d'intégration des énergies renouvelables. Donc là, en gros, voilà les défis, les objectifs. Alors, pour vous donner juste une idée de ce qu'on n'a pas l'habitude de voir souvent, c'est de dire, par exemple, voilà un profil d'une puissance électrique générée par une éolienne, donc un 5 mégawatts sur 10 heures. Alors, là, juste à la vision de ce graphique, on voit bien que l'énergie, si on fait un lissage global, on peut se dire, sur la journée, sur 10 heures, si on fait rapidement, on dit, il y a tant de puissance qui a été délivrée en instantané, mais si on fait une vision un peu plus microscopique, on s'aperçoit qu'on a des grosses variations qui sont dues, bien évidemment, à la vitesse du vent qui fluctue énormément. Donc là, si on regarde sur un système solaire photovoltaïque, sur une journée, on s'aperçoit bien qu'on a un pic de puissance, mais dès qu'on a des passages de nuages au-dessus d'une centrale ou au-dessus d'un système, on a des grosses pertes en instantané, mais le problème, c'est que le réseau, lui, il faut qu'il absorbe cette dynamique. Et dans ce cas-là, les systèmes de prévision et des capacités de production ne sont pas pour l'instant en mesure de prédéfinir ou en tout cas d'optimiser et de voir ces coupures. Donc là, la prévision en moyen terme, c'est la planification, je dirais, mensuelle. Donc ça, on peut le faire. À court terme, à J-1, on est capable. Et puis, bien évidemment, il faudra à tout prix faire un ajustement je dirais, à une infrajournalière parce que à chaque fois, il va falloir compenser ce système-là. Donc là, il faut bien un contrôle dynamique de ces variations et ça demande une expertise et des moyens de calcul et de gestion qui sont assez pointus. Donc voilà pour vous donner quelques défis d'intégration de ces énergies renouvelables. Alors maintenant, ce que nous voyons au niveau des points clés, parce que l'idée, c'est de dire quand même, il faut arriver à les intégrer. Donc, bien évidemment, le point clé, un des premiers points clés, c'est les énergies renouvelables puis le pilotage. Donc, pourquoi pas après, comme on sait qu'ils vont être intégrés dans le réseau, on peut faire ça par étapes et essayer de. Bon, un des conseils, c'est quand même de faire des micro-réseaux, des multi-micro-réseaux, de façon à utiliser ces énergies renouvelables sur un système concentré avant de le connecter à un réseau général. Donc après, bien évidemment, il y a l'idée qui est du stockage de l'énergie sous toutes ses dimensions, puisque comme on a une énergie qui est fluctuante, à un moment donné, c'est le stockage qui va être, je dirais, un système qui peut permettre de limiter les fluctuations et ou les intermittences de ces énergies. Alors le stockage, ça peut être des volants d'inertiel, des batteries statiques ou mobiles, puisque une voiture électrique, c'est une batterie mobile. On peut faire du pompage, de l'air comprimé, de l'hydrogène, de la chaleur, ainsi de suite. Donc là, toutes les déploiements sont possibles. Enfin, tous les déploiements sont possibles. Bien évidemment, il y aura peut-être aussi une modulation de la consommation. Ça veut dire, est-ce qu'il ne faudra pas faire évoluer les grilles tarifaires? Donc un découpage plus fin, une tarification dynamique qu'il faudra, donc là c'est des systèmes à mettre en œuvre, mais qui seront certainement utiles aussi à l'avenir. Et puis il y a un aspect sociétal, c'est-à-dire est-ce qu'on est en mesure d'accepter en tant que consommateur l'émergence de ces réseaux électriques intelligents et avec les contraintes et bien évidemment beaucoup d'avantages qui sont liés à ces réseaux-là. Alors, maintenant, pour deux focus sur, je dirais, les transitions et le transfert de ce qu'on fait au niveau universitaire en recherche avec un enjeu industriel. Donc, je vais donner un premier focus avec Itron, la société donc, qui est spécialisée dans les compteurs électriques et autres métrologies gaz et eau. Nous, on a essentiellement travaillé sur les compteurs d'énergie électrique par l'intégration de enfin, à l'intérieur d'un compteur, mettre plus d'intelligence pour deux points, c'est-à-dire essayer d'évaluer la fréquence fondamentale d'une onde électrique et de ses composantes harmoniques. Donc l'objectif, bien évidemment, c'est connaître le niveau de pollution et puis surtout mesurer avec précision tout ce qui se passe sur le réseau. Donc là, et puis un suivi dynamique de la fréquence fondamentale. Alors là, l'idée générale, c'est de faire un suivi et de l'état du réseau et surtout prévenir d'une défaillance du réseau par le suivi de la fréquence. Donc, donc là, c'est une collaboration directe avec la société e-tron et qui a fait l'objet de travaux doctoraux et de brevets internationaux. Donc on y reviendra sur ce dessus puisque bien évidemment mon collègue retravaillera sur ces compteurs puisque de toute manière dans tous les cas les compteurs électriques c'est le point d'entrée de du smart grid puisque c'est je dirais le point intelligent qui va communiquer et qui va permettre d'avoir une idée du réseau. Alors, l'autre point focus, c'est l'exploitation du réseau électrique. Et là, c'est pareil, c'est une recherche commune qu'on a eue avec la société SRD, Groupe Énergie Vienne, donc qui traitait plutôt sur la mise en place d'un outil d'optimisation dynamique du schéma d'exploitation d'un réseau électrique. Donc là, c'est... il y a de l'optimisation qui est faite par rapport à un réseau existant. Il y a une optimisation qui, par rapport au schéma d'exploitation et reconfiguration du réseau, parce que l'objectif, bien évidemment, c'est arriver à connaître son réseau au mieux, pouvoir le reconfigurer, pouvoir intégrer et connaître les points d'accès sur lesquels seront connectées ces énergies renouvelables, et comment faire transiter toute l'énergie que l'on vient connecter, et pour éviter donc les congestions, pour améliorer le transfert de cette énergie entre un point de production, un point de consommation et faire du management de cette énergie. Donc voilà une autre travaux de doctoraux qui ont été conduits entre notre unité de recherche et puis la société SRD. Ensuite, juste pour vous donner une idée sur le concept des micro-réseaux, pour comment intégrer l'énergie renouvelable. Alors, dans tous les cas, on a toujours le même triptyque, c'est production, consommation, stockage, puisque là, il faudra le prendre en compte. Alors, l'idée générale, c'est de dire on a des systèmes de production qui sont éoliens, qui sont solaires. On a du stockage. Alors, stockage instantané ou stockage permanent, peu importe. On peut constituer effectivement là maintenant un réseau continu, puisque la plupart des énergies que l'on consomme in fine au niveau personnel, c'est du continu. La plupart que l'on produit, notamment si je prends un générateur photovoltaïque, c'est du continu. Si on prend du stockage, c'est du continu. Donc là, il y a un développement qui se fait en continu, mais je dirais basse tension, puisqu'on connaît le continu haute tension et les avantages de des lignes haute tension en continu pour le transport de l'énergie, mais à très grande distance. Et on peut le décliner aussi à basse tension, pour faire des réseaux continus à basse tension qui sont quand même assez judicieux au niveau de l'utilisation, des pertes et puis de la stratégie. Et puis, bien évidemment, après, on a les consommations et le réseau principal connecté, puisque bien évidemment, la plupart du temps, on ne peut pas rester en îloté. Il faut forcément avoir une connexion avec ce réseau principal, mais qui peut être en double étage. Et puis, si on a un système qui est, je dirais, un micro-réseau, on a un arbitrage à faire entre l'autoconsommation, le stockage, la revente, et qui permet d'avoir un peu plus de flexibilité, aussi bien pour le micro-réseau que pour le gestionnaire du réseau général. Donc voilà l'idée générale. Et le concept, on peut le décliner, par exemple, avec des grandeurs électrique à tout niveau, donc ça peut être au niveau d'un village, d'un quartier, d'une usine ou d'une unité de production, puisque dans tous les cas, on peut le décliner après avec un réseau alternatif classique, je dirais, on peut le décliner avec un réseau continu, Donc là, on a une gestion optimale à faire à l'intérieur de ce propre micro-réseau, qu'il soit en continu ou qu'il soit en alternatif. Et bien évidemment, on a toujours la connexion au réseau électrique principal, qui peut être donc un apport d'énergie en cas de défaut, ou alors on peut bien évidemment injecter tout l'excès d'énergie que l'on a sur un système de ce type-là, lorsqu'on a, mettons, de l'énergie solaire ou éolienne à foison. Voilà l'idée générale. Donc, bien évidemment, ça fait rentrer donc une nouvelle ère de travaux et puis surtout des nouvelles architectures à mettre en œuvre. Et juste pour finir, donc, l'idée générale que je vous avais dit au départ, c'est de dire les dimensions sociétales de ces réseaux intelligents qui sont quand même assez importantes et qu'il faut bien développer, à mon sens, parce que l'acceptation par le consommateur de l'émergence de ces réseaux intelligents, il faut avoir... Donc, il y a à prendre en compte la perception de l'ensemble de la population par rapport à cet écosystème, puisque là, en bas... On est dans une mutation fondamentale de cette énergie électrique, en tout cas dans la manière de la diffuser et dans la manière de l'appréhender. Après, se poser la question sur quel type d'informations à diffuser ou à collecter. Donc, bien évidemment, l'idée, c'est peut-être agir sur les pratiques des consommations, en tout cas informer les consommateurs. Et bon, bien évidemment, il y a toujours des freins possibles à cette participation active du consommateur, puisque est-ce qu'on va faire des systèmes tarifaires, est-ce qu'on va faire des systèmes incitatifs, ainsi de suite. Donc là, il y a quand même toute une démarche à mettre en place et en tout cas à expliquer. Définir concrètement le concept de consommateur-acteur, puisque à titre individuel, on est déjà consommateur, mais on peut devenir acteur, bien évidemment, en fournissant de l'énergie électrique à base d'énergie renouvelable. Et puis, cette gestion et la maîtrise de la demande et de l'offre, puisque dans tous les cas, on est amené à participer au réseau jusqu'à quelle hauteur, de quelle manière, qu'est-ce qu'on a comme droit et devoir. Donc ça, c'est encore, il y a beaucoup de choses à définir. Et puis, bien évidemment, dans ces cas-là, il y a toujours un modèle d'affaires viable à mettre en place. Donc ça, ce sont des pistes, je dirais, de réflexion qu'il faut mener en parallèle, mais qui sont des réflexions, je dirais, sociétales, en parallèle de toutes ces évolutions technologiques et, en tout cas, sur la gestion de ces réseaux électriques. Voilà pour mon intervention. Donc là, brosser rapidement une approche de la gestion énergétique sur les réseaux intelligents. Je vous remercie.
Bonsoir, donc je vais prendre le relais, je m'appelle Pierre Lemerle, je suis directeur des programmes réseau à EDF R&D, EDF Recherche et Développement. Alors, le parti pris en prolongement de la première présentation est de faire un focus sur quelques illustrations de Smart Grid avec une vision peut-être un peu plus industrielle et dans laquelle on va aller sur des concepts qui sont soit en déploiement, soit en phase expérimentale sur un certain nombre de cas d'usage des smart grids. Donc, très rapidement, pour présenter la R&D d'EDF, quelques chiffres et une carte d'identité générale. Donc, nous sommes une entité de recherche-développement qui travaille au service de l'ensemble des entités des filiales du groupe EDF, d'où la taille relativement importante des 2000 collaborateurs. Notre carte d'identité, notre ADN de cette recherche-développement, c'est d'être à la fois de s'appuyer sur des disciplines très vastes, allant de la connaissance par exemple de la mécanique des fluides jusqu'à la connaissance des usages clients, en passant par l'exploitation des réseaux, et de s'appuyer aussi sur une connaissance assez fine des métiers, puisque une grande partie des chercheurs travaillent en lien très étroit avec les métiers, les filiales du groupe EDF et parfois viennent, comme c'est mon cas, d'entités opérationnelles. Nous appuyons aussi sur des centres à l'étranger, notamment en Chine et aux USA, où il se passe énormément de choses en termes de mix énergétique et de transition énergétique. Nous avons trois priorités de recherche essentielles que je vais vous présenter très rapidement. La première est en lien direct avec l'ambition sociétale très forte que l'on voit émerger partout, y compris évidemment en France, hein, en premier lieu. Donc la transition électrique avec une vocation de décarbonation massive de la société et de l'économie, puisque ça fait partie des enjeux majeurs de notre monde développé que d'aller vers une décroissance des émissions de carbone qui pénalise énormément le climat pour l'ensemble de la planète. Le deuxième axe de recherche très, très, très fort et je dirais historique, c'est de conserver d'améliorer hein, un mix de production décarboné et compétitif. Voilà, en s'appuyant sur un mix qui évolue, mais qui est très solide, entre électricité nucléaire, très décarbonée, et énergies renouvelables qui sont en fort développement, avec notamment au travers d'une filiale qui s'appelle EDF Énergie Nouvelle, qui fait partie aujourd'hui maintenant des leaders mondiaux dans le développement des énergies renouvelables, et avec laquelle évidemment EDF Recherche et Développement travaille énormément. Le troisième axe de recherche, très fort, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est la transition numérique hein, qui soutient beaucoup de choses en évolution du système énergétique et notamment l'émergence des smart grids et des tendances sociétales sous-jacentes. Voilà un petit peu pour présenter rapidement voilà ce que nous faisons dans ce centre de R&D. Je vais prendre une première illustration, il y en aura trois dans mon propos, sur voilà, comment développons-nous aujourd'hui des smart grids hein, au sein du groupe EDF. La première que j'ai choisie concerne la fonction de réseau proprement dite, hein, donc, puisque un smart grid, ça s'appuie avant tout sur un réseau, hein, c'est même la première des définitions, et donc comment mieux gérer ce réseau et le rendre plus manœuvrant, notamment pour insérer des énergies renouvelables. Donc nous sommes des opérateurs de réseau et nous le resterons, et donc les réseaux sont déjà intelligents, ils seront smarter demain. Et donc, nous travaillons sur énormément de concepts et nous les développons. Nous sommes en train de les industrialiser à des fins notamment d'améliorer la qualité de service pour les clients. C'est quand même un fondamental extrêmement important et auquel tout le monde est attaché. C'est évidemment d'avoir en permanence l'électricité à son domicile ou son entreprise. Et donc, nous travaillons sur des fonctions qu'on peut appeler d'avancée, de conduite des réseaux, que nous sommes en train de déployer de façon nationale sur le réseau au travers de la filiale Enedis qui gère une très grande partie du réseau électrique français de distribution. Voilà, donc, alors, il n'y en aura pas beaucoup, c'est la seule d'ailleurs. Une petite animation pour vous montrer un petit peu ce dont il s'agit. Alors, vous imaginez ici, je crois qu'on peut, voilà, vous imaginez un réseau de distribution, donc là où on a représenté le niveau de tension dit moyenne tension, donc 20 000 volts hein, en moyenne, qui est alimenté par un certain nombre de sources de tension, des postes sources, hein, ce qu'on appelle les postes sources, qui sont eux-mêmes issus du réseau de transport. Et vous avez en vert donc deux réseaux de lignes qui alimentent un certain nombre de clients. Une problématique assez fréquente auquel nous sommes confrontés en tant qu'exploitants, évidemment, c'est lorsqu'il survient un incident, un arrachage d'un câble souterrain ou une chute d'arbre sur une ligne aérienne, par exemple. Évidemment, des clients sont coupés. Donc, par exemple, en l'occurrence, avec les séparations que vous voyez entre les zones vertes et noires, eh bien, si l'incident survient à cet endroit ici, évidemment, l'ensemble de ces clients ici seront affectés par une coupure. Potentiellement des énergies renouvelables connectées à ce réseau, voilà, avec des conséquences fâcheuses. Il n'y a pas de révolution dans ce que l'on fait, dans cette fonction que nous appelons d'auto-cicatrisation, mais par contre, nous accélérons le temps de réalimentation. Comment faisons-nous ? Depuis une agence de conduite régionale, qui est un petit peu le centre névralgique de contrôle du réseau de distribution, donc il y en a une notamment à Poitiers, il y en a SRD aussi en a, nous agissons de façon automatisée dorénavant pour opérer un certain nombre de gestes de réalimentation directement sur un certain nombre d'appareillages qui sont placés à des endroits pertinents sur le réseau. Donc en l'occurrence, nous avons conçu des dispositifs automatiques et intelligents et sûrs, fiables, qui permettent d'aller ouvrir ou fermer un certain nombre d'interrupteurs sur le réseau de façon à réalimenter les clients privés d'alimentation en quelques dizaines de secondes. Donc ça, c'est une percée majeure. À l'heure actuelle, enfin, il y a encore quelques mois, quelques années, le rythme de réalimentation pour ces clients était environ entre 5 minutes et 1 heure. Grâce à ce type de progrès, nous sommes capables de réalimenter en environ 1 minute l'essentiel des clients. Je n'ai pas la totalité des clients. Il restera des clients qui seront encore privés d'alimentation, qui nécessiteront des interventions plus conséquentes et sur le terrain. Mais l'essentiel des clients pourra être alimenté grâce à ces fonctions avancées. Donc, nous sommes en train de déployer ces fonctions très concrètement, de façon nationale, sur le réseau de distribution Enedis. Autre enjeu, je vais aller beaucoup plus vite, c'est la révolution des énergies renouvelables au travers du photovoltaïque et l'éolien. J'ai fait figurer ici, à l'échelle France, les chiffres de pénétration ou de développement arrêté à juin 2017 au travers d'un observatoire français du développement des ENR. Vous voyez un petit peu la progression que nous avons eue ces dernières années en termes de propagation, notamment de l'éolien. Nous sommes situés aujourd'hui à 12 300 MW de puissance installée d'éolien sur le réseau français, essentiellement le réseau de distribution. Et en plus de 7 gigawatts de puissance photovoltaïque installée sur le réseau français. Ça soulève des questions et des problématiques et des enjeux que M. Gobert a détaillés. Je vais juste citer un certain nombre de fonctions qui sont aussi développées, testées, qui ont été expérimentées de façon assez intensive sur certains nombres de réseaux de distribution d'Enedis ou des DOM-TOM. Et juste pour vous dire un petit peu ce que nous faisons. Donc une des problématiques des ENR est d'être en mesure de prévoir évidemment cette intermittence qui est fatale et qui dépend de la météo. Donc nous avons développé un certain nombre d'outils de prévision de la production de façon à anticiper les variations de production que citait M. Gobert et de permettre aux opérateurs et aux exploitants d'anticiper ces variations et de prendre en compte leurs variations, notamment dans l'exploitation des réseaux. Donc des fonctions de ce type-là, de gestion anticipée, sont en train d'être déployées de façon nationale. Il y a encore plusieurs années de progrès pour qu'elles soient complètement opérationnelles, mais on est dans la réalité de la mise en place de ce type de fonctions. Des choses qui sont un peu moins avancées, mais auxquelles nous commençons à travailler, c'est de pouvoir gérer de façon dynamique la tension en présence de production. Je pense que M. Giraud, on pourra en parler de façon plus détaillée. Donc c'est un déploiement que nous faisons de façon locale et progressive sur les réseaux de distribution opérés par Enedis. Et puis, une autre fonction qui est, encore plus en phase de progrès et d'expérimentation, avec un déploiement qui viendra dans les années à venir, c'est d'être capable de moduler la production sur le réseau pour permettre et éviter un certain nombre de contraintes qui pourraient apparaître. Donc ça, ce sont des choses qui sont en train d'être testées et dont le déploiement pourrait intervenir dans les années qui viennent. Deuxième illustration des smart grids, ce sont les compteurs communicants. Monsieur Gobert en a parlé tout à l'heure sous l'angle d'amélioration d'un certain nombre de fonctions de mesure. Je vais revenir sur un petit peu la genèse et le pourquoi effectivement ces compteurs sont des briques essentielles des réseaux intelligents, de ces smart grids. On peut y voir deux choses majeures en termes de valeur que ces compteurs communicants apportent globalement au smart grid et en premier lieu aux clients, aux usagers, aux usagers qui sont connectés au réseau intelligent et aux producteurs aussi qui en bénéficient. Il y a deux aspects essentiels. La première est liée, à la maîtrise de la consommation électrique, c'est-à-dire par la capacité à avoir une mesure fine quotidienne, si le client le souhaite, poursuivre sa consommation et apprécier si il peut mieux la maîtriser, cette consommation, ou éventuellement apprécier s'il est globalement dans la moyenne des clients qui sont d'une même typologie que lui. Donc ça, c'est des choses qui sont essentielles et qui d'ailleurs sont prouvées par un certain nombre de déploiements d'ores et déjà faits de compteurs communicants, qu'il y a un gain assez significatif sur la maîtrise de la consommation énergétique des clients. L'autre point qui est directement lié, c'est la capacité à ces compteurs communicants à se connecter à des usages à l'intérieur de la maison pour opérer un certain nombre de pilotages. Ça peut être du pilotage de sources de production très locales, hein, comme les panneaux photovoltaïques de la maison. Ça peut être aussi des pilotages d'usages un petit peu consommateurs, comme le chauffe-eau, comme la mobilité électrique, la voiture électrique de plus en plus de personnes utilisent. Ou ça peut être aussi des options pour des tarifs heure pleine, heure creuse, un petit peu plus évolués que ce que nous avons aujourd'hui, et donc qui permettront demain d'être beaucoup plus manœuvrants et agiles dans le choix d'un certain nombre d'options tarifaires pour mieux gérer la consommation et la production des clients. L'autre atout des compteurs communicants dans cette émergence des smart grids, c'est plus généralement d'apporter des services aux clients et également une gestion du réseau plus performante. Alors, quelques illustrations. S'agissant du réseau, par exemple, avec un compteur communicant, il sera possible d'identifier, par un système d'alarme remontant vers les opérateurs de réseau, un certain nombre de pannes qui arriveront directement chez le client. L'opérateur de réseau pourra être alarmé, être prévenu, avant même que le client appelle, qu'il y a une anomalie de fonctionnement dans l'installation du client ou sur le réseau qui le dessert. Voilà, c'est aussi une facilité parce qu'on mesure des choses sur le réseau pour gérer les flux d'énergie, notamment sur le réseau basse tension. Et puis, on l'a vu tout à l'heure, c'est une capacité à intégrer des nouveaux usages qui posent des nouveaux défis, des nouveaux enjeux en termes de maîtrise des flux sur les réseaux. Pour le client, c'est aussi des choses très visibles, hein, enfin, qui seront de plus en plus. C'est dans la gestion de son contrat, par exemple grâce à cette capacité à communiquer à distance vers le compteur, un client pourra faire adapter son contrat, par exemple s'il veut changer une puissance dite souscrite, hein, c'est-à-dire la puissance auquel il a droit, en saut tirage, il pourra le faire par un simple appel vers son fournisseur d'électricité en moins de 24 heures. C'est d'ores et déjà opérationnel pour les clients qui bénéficient d'un compteur communicant. Évidemment, ce sont des relèves beaucoup plus fiables, puisqu'on a une mesure journalière, si le client le souhaite, de sa consommation. Et puis, c'est aussi, pour des gens qui déménagent, des capacités à remettre en électricité, donc à rétablir l'électricité dans des logements inoccupés en moins de 24 heures, toujours par un simple coup de fil à son fournisseur d'électricité. Voilà, de façon très concrète, hein, ce qu'un compteur communicant peut apporter soit au client, soit à la maîtrise de la consommation d'une façon générale, ou soit au réseau. Voilà, alors où est-ce qu'on en est ? Alors ça vaut le coup de regarder un petit peu ce qui se passe en Europe, hein, avant de faire un petit focus sur la France. Il faut savoir que l'Union européenne a mis dans une ambition et un texte de loi qu'on appelle une directive, donc une ambition assez forte, assez prescriptive, de faire en sorte que d'ici 2020, donc c'est maintenant dans 2 ans, 80% des foyers soient équipés de ce type de compteur communicant. Vous avez ici une carte avec différents jeux de couleurs de l'Europe, de l'Union européenne, qui montre où en sont chacun des pays en termes de déploiement de ces compteurs communicants. Alors vous voyez que déjà l'essentiel des pays européens, pour ne pas dire la majorité, est engagé. Donc il y a 16 pays, essentiellement sur la partie occidentale ou centrale de l'Europe, qui se sont lancés dans ce grand défi des compteurs communicants. Ça représente un peu plus de 300 millions de compteurs à installer. Et 300 millions de compteurs déjà déployés dans ces pays qui se sont engagés, dans ces 16 pays. Et l'objectif final est d'en atteindre 780 millions d'ici 2022, avec une petite tolérance sur la dette butoir. Donc vous voyez que 4 pays ont d'ores et déjà fini le déploiement. Le premier a été l'Italie, au travers de la grande société Enel, qu'on voit ici. Et puis il y a 3 pays nordiques, hein, qui ont d'ores et déjà fini ce déploiement, la Suède, la Finlande et le Danemark. Voilà. Alors si on fait un petit focus sur la France, Alors, je suis désolé, je vais parler du territoire Enedis et M. Giroud pourra compléter s'agissant de SRD. Alors, mais les chiffres sont à peu près, j'irais, consolidés. Il y a 34 millions de compteurs en France, hein, donc ça fait autant à remplacer. Il y a un coût correspondant d'environ 5 milliards d'euros sur cet investissement. Donc c'est un projet majeur, hein, qui a fait l'objet de très longues concertations et de spécifications extrêmement précises. Le déploiement industriel a commencé en 2015, mais il s'est vraiment accéléré à partir de 2017. Et il s'achèvera, en tout cas pour la partie Enedis du territoire français, normalement en 2021. En début 2018, il y a un peu plus de 8 millions de compteurs qui ont d'ores et déjà été installés en France par l'ensemble des distributeurs, que ce soit Enedis ou les autres entreprises de distribution d'électricité. Voilà où nous en sommes. Troisième illustration pour terminer mon propos, je vais faire un petit focus sur la mobilité électrique. Pourquoi ? Parce que après les énergies renouvelables, il apparaît que la mobilité électrique devient le sujet, je dirais, numéro un des enjeux de décarbonation de l'économie et des usages, et donc un enjeu majeur en termes climatiques, et qu'il s'agit d'une rupture concernant les smart grids qui a d'ores et déjà été anticipée. Alors, pourquoi parle-t-on d'une révolution ? Bah, je pense que vous l'avez vous-même constaté, ça bouge énormément, il y a énormément de communication sur le sujet de la mobilité. Tous les jours, en gros, une annonce est faite par des constructeurs. Il y a aussi un certain sujet médiatique qui est passé derrière, qui s'appelle le Dieselgate, hein, qui a vraiment accéléré et fait prendre un certain nombre de décisions et qui a joué en termes de prise de conscience. Donc j'ai mis quelques chiffres pour illustrer la rapidité de cette révolution et pour montrer qu'on y est vraiment bien lancé. Vous avez ici, au niveau mondial, les ventes annuelles de véhicules électriques dans le monde. Vous voyez que le million, nous sommes en milliers, hein, donc ça fait 1093 milliers de ventes. Donc le million de ventes de véhicules a été dépassé fin 2017, hein, avec trois zones géographiques qui ressortent clairement, hein, la Chine, ici, vous avez l'Europe et vous avez l'Amérique du Nord, USA, Canada, qui figurent en troisième position. Ce qui est intéressant de noter que l'Europe tire cette révolution vers le haut avec une implication extrêmement forte. Si on se projette un petit peu plus dans l'avenir, nous sommes à peu près ici. Vous voyez que les ventes de véhicules électriques par ce million ne représentent encore que 2% des ventes mondiales de véhicules neufs, légers. Les projections, je dirais, en hypothèse basse ou en hypothèse haute, font osciller à un horizon de 2040 un ratio de vente entre 35 et 55%, ce qui est quand même assez phénoménal. Donc on peut vraiment parler, et on le voit avec ces courbes, de courbes en S de rupture technologique majeure. Vous avez aussi des seuils psychologiques qui sont en train d'être franchis, évidemment par du haut de gamme, ça commence par du haut de gamme. Tesla a fait des annonces extrêmement fortes en fin d'année 2017, avec notamment un véhicule qui dépasse facilement les 500 km d'autonomie pour des puissances embarquées d'environ 80 kWh. Comment on se situe en France ? Nous en sommes à 150 000 points de charge à juin 2017. Donc ça commence à représenter un chiffre significatif. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que la répartition se fait de façon assez équilibrée entre, je dirais, les points de recharge privés, ici, chez les particuliers, les points de recharge publics en vert et les flottes de sociétés avec les bornes d'entreprises. On voit quand même que ce sont les entreprises qui aujourd'hui tirent le développement du véhicule électrique en France. Mais c'est en train de changer sensiblement. La mobilité électrique ne concerne pas que le véhicule électrique, hein, c'est aussi une prise de conscience importante qu'on est en train de voir et de faire. Elle s'installe véritablement dans tous les modes de transport, avec également encore des annonces. Alors je vais reciter Tesla, mais c'est vraiment un game changer. Tesla a annoncé et a présenté au public un poids lourd longue distance de 36 tonnes assurant 800 km d'autonomie fin d'année dernière. Donc j'irais, il y avait un certain nombre de challenges technologiques qu'il a su surmonter peu de gens, croyaient à la réalisation de cette annonce que Tesla préparait. Et en fait, il est même allé au-delà des meilleurs des meilleurs scénarios. Et donc, ça veut dire qu'il y a une démonstration aujourd'hui technologique par le fait que les transports de fret aujourd'hui peuvent aller assez loin et très rapidement, y compris sur de grandes distances. Les véhicules aussi électriques se développent dans les transports en commun. Vous voyez ici un bus RATP. La RATP a engagé un plan de 4600 bus électriques à l'horizon 2025 en Île-de-France. C'est assez phénoménal, avec donc évidemment des enjeux techniques et de déploiement très importants. La Chine, on en parle peu, mais il se passe énormément de choses là-bas. Sachez qu'il y a déjà 150 000 bus vendus tous les ans, bus électriques vendus tous les ans en Chine, c'est absolument phénoménal. Et puis aussi le deux-roues, le deux-roues se développe. Vespa a sorti en 2017 un équivalent 50 cm3 avec 100 km d'autonomie, ce qui correspond largement à un usage quotidien souhaité par les citadins. Donc, ce qui est vraiment intéressant de noter sur la mobilité, et c'est ce qui vraiment va accélérer cette rupture et cette révolution, c'est que la plage de couverture kilométrique s'élargit extrêmement vite. Donc, le champ est prévu pour la mobilité électrique se développe très très fort. Et va empiéter sur ce qu'on jugeait jusqu'à maintenant comme le champ un peu réservé du stockage par hydrogène ou du stockage un peu plus lourd. Vous avez l'illustration très directe ici avec cette autonomie de poids lourd assurée par Tesla. Et puis ce qui est annoncé comme deuxième révolution dans cette première révolution, c'est la voiture autonome qui changera énormément de choses en termes d'usage, d'habitude d'usage et aussi d'habitude de recharge, puisque la recharge pourra s'affranchir de la présence humaine et de la contrainte de la personne qui doit être dans le véhicule. Alors quel enjeu pour les réseaux avec cette émergence et cette révolution de la mobilité? Bien, on peut dire qu'il y a déjà un premier point, c'est que cette révolution de la mobilité a été anticipée et qu'on est déjà en train de réfléchir à des recharges optimisées pour limiter et en même faire un bénéfice significatif sur la pointe journalière. Ce qu'on peut redouter, et ce qui apparaît ici, c'est, et on l'illustre par une simulation que nous avons faite à EDF-RD sur un scénario 2020, vous voyez en marron, au-dessus de la courbe de consommation nationale journalière, une journée typique, vous voyez deux pointes, la pointe dite du matin, et la pointe de consommation du soir, vous voyez une superposition marron qui correspondrait aux besoins de puissance supplémentaire exigés par la recharge de mobilité électrique. Évidemment, cette situation, nous l'avons anticipée, nous y travaillons, et nous sommes en train de réfléchir à ce que pourrait constituer un pilotage intelligent de la recharge, avec l'idée de déplacer dans le temps cette recharge pour la réaliser aux endroits et aux périodes temporelles où il y a une moindre consommation, de façon à lisser cet effet de pointe et diminuer l'impact sur le réseau. Donc vous voyez ici ce que pourraient constituer les résultats de cette simulation d'horizon 2020 où nous pensons possible de résoudre ces problèmes de pointe de façon assez significative grâce à un certain nombre de dispositions de recharge intelligente. Alors pour atteindre cette espérance d'impact très limité, et nous en avons la conviction que le réseau de distribution peut très largement assurer le développement de cette mobilité. Évidemment, cette recharge intelligente ne pourra pas se faire sans une association forte d'énormément d'acteurs que j'ai fait figurer sur cet écran. Évidemment, les gestionnaires de réseau, les opérateurs de sites de recharge, les opérateurs de services de mobilité, les transporteurs d'électricité et aussi ce qu'on peut appeler les fonctions d'agrégateurs des personnes qui vont avoir en charge des entités, qui vont avoir en charge la fonction d'agrégation ou d'opération à distance d'un certain nombre de services énergétiques pour la mobilité. Tout ça devant se faire dans un cadre normalisé pour faciliter l'interopérabilité et l'échange d'informations entre les gens. Un exemple de ce que pourrait être une recharge intelligente dans la maison, l'idée illustrée par cette petite démonstration théorique serait de dire plutôt que d'avoir une recharge stationnaire de forte puissance qui vient s'additionner à la consommation en bleu de ma maison, avec un risque évidemment de dépasser la puissance admissible par mon compteur hein, ou mon disjoncteur. L'idée, c'est de venir placer la recharge de façon intelligente au moindre consommation, au moment de moindre consommation de la maison, de façon à garantir la recharge le moment venu, le moment voulu de cette voiture électrique, tout en se limitant et en venant se mettre au plus près de ce qu'autorise aujourd'hui le branchement de la dite maison. C'est un exemple très simple. Hein. Il y a évidemment d'autres algorithmes et d'autres dispositions de recharge plus complexes qu'on envisage de mettre en place avec des interactions avec le gestionnaire de réseau de distribution ou par des jeux aussi d'utilisation du stockage à des fins de décharge dans le réseau de distribution. Cette décharge dans le réseau de distribution pouvant elle-même servir à atténuer l'effet des énergies renouvelables. Donc on voit aussi une complémentarité qui se dessine entre énergie renouvelable et mobilité électrique au travers des stockages par les batteries de voitures. Voilà, juste pour terminer, je citerai un laboratoire que nous avons conçu à DEF Recherche et Développement qui permet d'implémenter un certain nombre de solutions smart grid, donc conçues, développées. Donc l'idée, c'est d'accélérer le développement en s'appuyant sur un réseau expérimental représentant grosso modo tout ce qu'on peut rencontrer sur un réseau de distribution. Donc ça s'appelle Concept Grid, c'est situé pas loin de Fontainebleau, donc c'est un gros investissement. Et j'ai illustré un petit peu ce qu'on a pu faire sur ce type d'installation qui permet de faire un certain nombre de tests de systèmes Smart Grid. Ici, vous voyez un système d'îlotage qui a été testé, qui a été implémenté derrière sur un démonstrateur Smart Grid qui s'appelait Nice Grid, donc c'était il y a 2 ans. Et puis ici, un dispositif de stockage de forte puissance qui est en train d'être installé dans un site de stockage aux États-Unis que nous développons avec EDF Énergie Nouvelle. Voilà.
Bonsoir, ben merci à tous. Je suis le dernier intervenant pour ce soir. Après, éventuellement, on laissera la place au débat. Donc, je vais vous présenter d'abord peut-être SRD, puisque on a, même si on est local, on n'a pas la chance d'avoir la notoriété d'EDF. Rappeler qu'on est gestionnaire de réseau de distribution d'électricité dans la Vienne et on est concessionnaire du syndicat Énergie Vienne. Donc, peut-être un peu d'historique. Donc, ce syndicat regroupe 252 communes du département de la Vienne. C'est 92% de la superficie. C'est les parties colorées que vous voyez du département. Et son origine se trouve dans le regroupement des communes en 1923 qui voyait les lignes de transport partir des barrages le long de la Vienne vers Poitiers et La Rochelle, passer donc dans les champs, mais ne pas desservir les communes rurales. Et on était dans la même problématique que les téléphones portables et qu'on connaît encore un petit peu à quelques zones blanches. Donc elles se sont réunies en 1925, elles ont créé leur régie. On dit qu'en 1929, le département de la Vienne était le premier département électrifié après celui de la Seine, donc Paris aujourd'hui. Bon, au sens qu'il y avait une ampoule par commune, mais l'électrification a duré jusque dans les années 60, évidemment. Et puis en 1946, lors de la loi de nationalisation, la question s'est posée de rejoindre EDF ou non, mais comme on était l'émanation de communes, et donc on était déjà public, le choix a été fait des communes de rester organisées ainsi. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que depuis le syndicat, donc avec sa régie, a créé une entreprise de production d'énergie renouvelable qui s'appelle Sergie. Et puis, elle s'est elle-même transformée en SEM, a développé le gaz. Et puis, en 2008, donc, on a dû séparer les activités de fourniture et distribution au même titre que EDF et Enedis se sont distingués. Voilà. Donc les quelques chiffres, on dessert 150 000 points de livraison, donc essentiellement évidemment des consommateurs, hein, c'est historique, mais vous voyez, on commence à avoir des producteurs puisqu'on est rendu à 3500 producteurs au 31 décembre 2017. On achemine 1,35 TWh, donc c'est à peu près 0,5% de la consommation nationale, mais on a environ 1% du réseau. nationale, puisqu'on a un habitat qui est très dispersé. Donc vous voyez, on a une ligne 90 000 volts, hein, qui est une classification de tension qui est en général plutôt qui relève du transport, hein, mais c'est une spécificité. Donc autour de Poitiers, on a 50 km. Beaucoup de réseaux 20 000 volts et un peu moins de réseaux basse tension, 4 700 km. Alors, on a 15 postes sources et donc on a une concession très rurale avec 12 clients par kilomètre, hein, quand la moyenne est à 26, et 18 clients par transformateur. Là aussi, ça vous donne une idée non seulement de la densité, mais aussi de la dispersion de l'habitat et des spécificités de distribution qui sont, on va dire, vraiment liées à la ruralité de cette concession qui est en toute rigueur la plus aride de France. Voilà, donc je dis cette concession, je place les concessions d'Enedis, je les regroupe tout entière, parce qu'il est évident que dans le Lot, il y a des concessions aussi difficiles à exploiter que celle-ci. Voilà. Ce qu'on peut dire dans les entreprises locales de distribution, il y en a 150 en France, la plupart sont urbaines, sont communales, et il y a deux exceptions à ça quasiment, c'est les Deux-Sèvres et la Vienne. Et on rapproche ça quand même du mouvement mutualiste qui a créé les mutuelles à New York, où les collectivités, où les gens avaient l'habitude de se regrouper pour répondre à un besoin. Voilà, c'est ce qui explique qu'on couvre le département. Donc les smart grids ASRD, donc j'ai rappelé la définition en bas, c'est couplage des technologies de l'information et de communication avec le réseau autour d'objets connectés ou équipements communicants, donc capteurs, compteurs, systèmes de supervision. Je crois que c'est devenu à la mode il y a 5-6 ans de parler de smart grid, mais je crois qu'il faut quand même rappeler qu'il y a quand même une pratique historique de pilotage des réseaux avec de la téléconduite des réseaux aussi bien HTB que HTA, avec un certain nombre de télémesures, de télésignalisations, de télécommandes. Je peux rappeler que, par exemple, vous avez ici un interrupteur aérien avec une antenne radio. Donc, on pilote aujourd'hui des organes de manœuvre sur le réseau. On en a plus de 500, par exemple, sur notre réseau, et qu'on commande soit via radio, via fibre optique, via satellite. Enfin, on a toute la gamme des moyens de communication existants selon l'intérêt qu'ils peuvent présenter là où se situe la chose. On a également... beaucoup de mesures au niveau des postes sources. Il faut savoir qu'on surveille en permanence à peu près 800 paramètres hein, dans un poste source qui sont redatés à 10 millisecondes près. Voilà. Donc ça, on fait ça depuis 30 ans. On a aussi du pilotage d'usage. Alors typiquement l'éclairage public, donc l'allumage, l'extinction de on va dire 90% ou 95% de l'éclairage des communes que vous avez eu tout à l'heure est piloté par nous, par ce qu'on appelle la TCFM. Hein, donc, et avec une grille d'allumage et d'extinction selon les volontés des communes. Et puis on a également une spécificité des chauffe-eau. Donc depuis à peu près 25 ans, on avait installé sur le réseau des décaleurs de chauffe-eau, puisque la courbe de charge que vous a montré mon collègue sur la France, ce n'est pas du tout la même chez nous. On a beaucoup de... parce qu'on est en zone rurale, donc le chauffage, c'est soit l'électricité, soit le fuel, donc on a beaucoup de chauffage électrique. Et nous, notre pointe, en fait, elle est plutôt le soir. Voilà. Et donc, lorsque les chauffe-eau s'enclenchaient, ça augmentait la pointe, donc on a mis des dispositifs pour décaler la pointe et limiter donc, le recours au réseau et puis aussi aux moyens de production classiques, notamment thermiques. Alors ensuite, ce qu'on peut dire aussi, c'est que tous les GRD se sont engagés dans la numérisation de bonne heure. Hein, et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'avec les évolutions technologiques, on est effectivement dans une accélération, mais on est quand même dans un mouvement qui est continu. Les protections dans les postes sources, on les a numérisées. On a des protections numériques depuis le milieu des années 80, par exemple. Voilà, alors... au-delà de ces évolutions technologiques, on l'a déjà dit, mais on est placé au cœur de mutations profondes qui ont deux piliers, entre guillemets, la transition énergétique, d'une part, mais également l'ouverture du marché, on n'en a pas parlé, mais ça fait partie aussi de l'évolution de nos métiers. Donc dans la transition énergétique, on retrouve la production décentralisée, les nouveaux usages, on l'a dit, la mobilité, les compteurs communicants qui sont un peu à la frontière, et puis la gestion de mécanismes de marché, je ne vais pas vous en faire la liste, mais il y a les mécanismes d'ajustement, les mécanismes d'effacement, les mécanismes de capacité dorénavant, qui sont des mécanismes complexes. Et en fait, là aussi, le gestionnaire de réseau est l'acteur de confiance qui permet en fait, la gestion de tous ces marchés. Et puis, on a de nouveaux acteurs que peuvent être, par exemple, les agrégateurs. Donc, on parle d'effaceurs, mais... on a les producteurs qui en sont aussi, mais il y a également les responsables d'équilibre. Voilà. C'est une complexité qui arrive et qu'il nous faut également gérer. Et pour ça, il faut savoir gérer de la donnée. Alors, j'ai dit tout à l'heure, on est une terre d'accueil par notre ruralité importante des ENR. Et donc, vous avez ici les résultats au 31 décembre dernier, donc des puissances raccordées à la fois en mégawatts, mais également en productibles. Et vous voyez qu'on est rendu aujourd'hui à 496 gigawatt-heures de production. Donc, c'est les petits triangles verts qu'il faut voir. Et donc, on a aujourd'hui 37% de l'énergie qui est acheminée sur nos réseaux, qui est l'énergie renouvelable. Et vous voyez, il y a 10 ans, on était à zéro. Hein, il n'y avait pas d'énergie décentralisée sur nos réseaux. On est rendu à 37%. Et c'est là qu'on commence, effectivement, à rentrer potentiellement dans des difficultés. Donc, nos actions Smart Grid ont été, pour notre part, essentiellement centrées ou ciblées sur cette problématique d'intégration des ENR. Alors, la problématique, elle est double. Ça a déjà été un peu dit tout à l'heure. Donc, elle est à la fois spatiale, puisqu'on a des productions décentralisées qui sont bien souvent éloignées des zones de consommation. La solution pour nous, ça serait bien de repeupler les zones rurales, mais ce n'est pas dans l'air du temps, malheureusement. Mais ça nous arrangerait bien. Et puis, elle est également temporelle, puisqu'on a des productions qui sont intermittentes. Bon, on commence à mieux connaître les courbes de production, mais ça produit rarement au bon moment ou en période du moins de forte demande de consommation. Donc les enjeux ils sont multiples, c'est faciliter pour nous l'accueil des productions ENR parce qu'on y est favorable, donc en évitant de surdimensionner le réseau évidemment. Minimiser les transits d'énergie sur le réseau parce que dès l'instant qu'on déplace de l'énergie, on génère des pertes et ça c'est ennuyeux. Pouvoir gérer les flux pour éviter les engorgements locaux puisque on peut avoir des risques. Alors, au-delà des ENR, mais par exemple, si on a des gens qui stockent de l'énergie, autant on a des problèmes aujourd'hui de pics de consommation, mais demain, on pourrait avoir des problèmes aussi de pics de décharge. Les gens qui se mettraient tous à décharger leur batterie en même temps, ça pourrait aussi poser des problèmes au réseau. Et il nous faut, évidemment, maintenir la qualité de la distribution, malgré ces perturbations qui arrivent par rapport à une situation historique. Et puis, de manière générale, rendre les territoires plus autonomes et responsables en matière d'énergie. Effectivement, on l'a dit, inciter les consommateurs à aller vers la sobriété. Alors, je mets plus autonome, mais je ne dis pas forcément plus indépendant, parce que, en l'occurrence, on ne peut pas être complètement indépendant. Alors, une ou des réponses grâce au Smart Grid, ben voilà, je vais vous donner des exemples concrets d'expériences qu'on a pu mener. Donc des expérimentations variées, donc je ne reviendrai pas sur l'expérimentation des compteurs communicants qu'on avait baptisé IWAT pour ce qui nous concerne, mais je vais m'attarder sur les trois autres. Alors le premier c'est le système intelligent de surveillance de la tension et de régulation, donc on l'a appelé SISTER, on aime bien donner des noms de baptême à nos expérimentations. Donc là l'idée c'est de gérer la régulation de tension sur un réseau basse tension avec une forte intermittence de la production. Donc, pour faire ça, vous avez ici un réseau avec. Je ne sais pas comment on fait pour avoir la fibre. Voilà. Ça, c'est le transformateur HTABT, le réseau basse tension avec les maisons qui sont accordées et puis des productions qui commencent à apparaître. Et la contrainte nouvelle pour nous, c'est la hausse de tension sur le réseau basse tension. Alors, historiquement, en fait, sur un réseau, c'est assez facile de simuler son comportement, puisque plus vous vous éloignez avec la longueur, plus vous aggraviez la chute, et plus vous augmentiez la charge, plus aussi vous accentuez la chute. Donc c'était assez simple, on avait de la chute de tension. Donc nous, on avait juste éventuellement à remonter la tension au niveau du transformateur HTABT pour régler notre problème. Dorénavant, avec les productions notamment basse tension ENR et le photovoltaïque, en fait, on génère des hausses de tension. Et souvent à des moments où il n'y a pas de consommation. Hein, donc ça vient pas compenser. La chute ne vient pas compenser la hausse. Voilà. Donc on a une amplitude beaucoup plus grande de variation de tension qu'on en avait auparavant. Donc l'idée, premier test qu'on a pu faire, c'est tester un transformateur avec un dispositif qui existe dans les postes sources, hein, mais qui n'existe pas à l'échelle d'un lotissement ou d'un quartier. Donc c'est un transformateur basse tension avec différentes prises, ce qui existe déjà, mais qui aujourd'hui est statique. On fixe la prise, on n'y touche plus pendant en général plusieurs années. Là, l'idée, c'est d'avoir une régulation de prise en fonction des variations, des tensions mesurées. Donc soit tension mesurée au niveau du transformateur, ou alors au point critique du réseau. Et donc on a positionné des capteurs un peu partout sur le réseau avec des relais pour remonter l'information au niveau du transformateur. Donc le transformateur était là et donc on avait une production ici, puis un ou deux producteurs par là. Donc vous voyez, c'est une complexification du matériel importante, hein, avec des mesures en ligne, de la communication, des algorithmes de régulation. Aussi une communication avec un site central pour regarder ce qui se passe. Bon, on a donc pu évaluer la pertinence du produit, lever les problèmes techniques éventuels, anticiper un besoin de développement du SI. Clairement, aujourd'hui, ça marche, ça fonctionne. Par contre, c'est beaucoup trop coûteux par rapport à des solutions, on va dire, statiques, qui sont beaucoup plus robustes, qui sont celles, par exemple, d'un renforcement du réseau. Voilà. Ça coûte beaucoup moins cher de renforcer le réseau que de poser ces appareils-là, qui, en plus, effectivement, étant dynamiques, il faut les surveiller. Et en plus, s'ils tombent en panne et qu'on ne s'en rend pas compte, on peut avoir donc dépassé nos plafonds de tension et générer des dégâts. Voilà. Donc ça, c'est quand même ennuyeux. Donc ça, c'est une première expérience. Alors peut-être que ça deviendra intéressant lorsque les prix auront baissé, mais pour l'instant, économiquement, ce n'est pas intéressant. Deuxième expérimentation, M. Gobert en a parlé, c'est le développement d'un système intelligent de management et de gestion de l'énergie. Donc là, il s'agit de mesurer et de piloter en temps réel des réseaux HTA, donc on l'a appelé IMAGE. Et donc l'idée là, c'est bien effectivement d'aller vers un réseau dynamique, un schéma d'exploitation dynamique du réseau. Donc typiquement, c'est simuler l'effet de manœuvre sur le réseau. Vous avez compris que tout à l'heure, lorsqu'on avait des chutes de tension, le comportement des réseaux était assez facile à deviner auparavant. Maintenant, quand il y a des productions qui arrivent et qui s'effacent, qui reviennent en différents points du réseau, c'est plus tout à fait la même chose. Donc l'idée de pouvoir simuler l'effet de manœuvre sur le réseau, c'est important. Garder la visibilité sur les transits du réseau, malgré l'arrivée des ENR. Indiquer aux opérateurs, notamment du bureau de conduite, des schémas de rétablissement après incident en fonction des contraintes. Recommander des schémas d'exploitation qui vont, on va dire, optimisés en fonction de l'état du réseau observé ou prévu. Recommander des schémas d'exploitation saisonniers en optimisant les flux globalement grâce à l'analyse de l'historique observé. Et enfin, permettre des exceptions d'injection de production dans des schémas non conventionnels. Aujourd'hui, quand on raccorde un gros producteur, il nous arrive de faire un départ dédié. On fait les calculs pour qu'il puisse injecter de manière permanente la totalité de sa production. Si demain, effectivement, on a un incident sur ce départ, est-ce qu'on peut éventuellement utiliser un autre chemin qui n'était pas, on va dire, le chemin idéal, mais qui permettrait à minima de faire transiter 20, 30, 50 ou 80% de la production ENR pour ne pas en perdre. Voilà. Donc c'est un projet de moyen long terme qui comporte deux étapes. D'abord un estimateur d'état, donc qui s'appuie sur l'outil de conduite dont on dispose déjà, et puis effectivement le développement d'un outil de simulation et d'optimisation qui a fait l'objet d'une thèse en partenariat donc avec le LIAS. Donc pour donc finalement c'est pas concerté, mais c'est le même schéma que M. Le Merle, mais avec des réseaux qui sont moins rectilignes. Donc vous avez à droite et à gauche deux postes sources, et puis la structure d'un réseau aujourd'hui, c'est effectivement des départs moyenne tension qui sont bien souvent bouclés, donc avec les OMT dont on parlait tout à l'heure, ici entre le rouge et le bleu. C'est des schémas d'exploitation qui sont relativement figés aujourd'hui, mais qu'il faudra qu'on rende dynamique pour les raisons qu'on vous a exposées. Donc on voit bien qu'on a parfois des productions qui sont très importantes, qui remontent bien souvent au poste source. Alors parfois elles sont consommées sur la même aire géographique que le poste source, mais parfois aussi elles remontent sur le réseau de transport. C'est déjà le cas par exemple dans le Sud-Vienne. On a des périodes de l'année où nos postes sources refoulent d'électricité sur le réseau de transport. Donc là, l'idée, par exemple, c'est d'imaginer, modifier le réseau pour aller chercher la consommation éventuellement qui serait pas très éloignée en modifiant le réseau, avec une problématique, donc là, on règle la question spatiale, mais également temporelle, avec une courbe de consommation ici qui n'est pas forcément tout à fait la même que celle-ci. Donc il faut trouver la bonne adéquation en permanence. Donc, le cadre technique, c'est d'abord d'utiliser les transmissions de mesures et puis également notre outil de cartographie. Les données dynamiques de mesure viennent alimenter notre estimateur d'état. Et puis, on a des données statiques que sont la section des conducteurs, la capacité à transiter, etc. Et donc, là, c'est là qu'intervient l'optimisateur. Et on va essayer d'optimiser donc, cette utilisation des ENR et également, vous l'avez compris, les pertes électriques. On va essayer de respecter les limites et normes d'utilisation du réseau, évidemment, et puis les possibilités de manœuvre sur le réseau. Ça, c'est aussi important parce qu'on pourrait croire qu'on va demain rendre le réseau dynamique, changer toutes les heures, etc. D'abord, ce n'est pas forcément possible. Il ne faut pas oublier que les organes de manœuvre qu'on a sur le réseau, ils ne sont pas faits pour être manœuvrés tous les jours. Donc, avoir une vision, on va dire, saisonnière, c'est important. Et enfin, donc voilà, on va pouvoir agir sur les organes de coupure pour modifier l'architecture du réseau, à la fois en exploitation normale ou en régime dégradé. Donc là, c'est une photo de notre, ce qu'on appelle, nous, pas un ACR, mais notre bureau d'information et de conduite, le BIC. C'est un des postes de conduite qui est à Poitiers, en face Rébeillot. Voilà, donc un exemple de résultat obtenu. Vous avez ici, alors c'est peut-être pas très parlant, mais vous avez en groupe Poitiers ici, donc on n'a pas de point de livraison puisque c'est Enedis. Là, vous avez le champ de tir de Biard. Donc vous voyez, c'est tout l'ouest du département, avec une zone ici qui est Vendôme, qui est aussi desservie par Enedis. C'est pour ça que c'est en blanc chez nous. Donc là, vous avez par exemple le niveau de tension HTA, la chute de tension HTA sur le réseau. Donc, ce qu'on vise à réduire, c'est les parties roses où on va de moins 4 à moins 6 %. Et donc, après optimisation, finalement, vous voyez, on arrive, en modifiant le schéma, à réduire ces poches-là qui étaient en orange. On arrive à les passer en vert, donc dans des réductions de tension, des baisses de tension plus faibles. Maintenant, ça, c'est un critère d'optimisation. Il faut bien voir que si aujourd'hui, on n'y est pas, c'est qu'il y a bien d'autres raisons. Peut-être que en résorbant ce problème-là, on allonge les réseaux et on va exposer davantage aux micro-coupures les clients. Donc, en fait, il y a tout un faisceau de paramètres qui font, ou de critères qui font qu'on va un jour arbitrer ou non sur telle solution. Et là, on a fait un scénario sur 24 heures avec 1,5 gigawattheure d'énergie transmise. Voilà. Donc, mais ça donne déjà des premiers résultats intéressants. Le dernier point, la dernière expérimentation, c'est un projet qu'on a engagé en 2009 dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt de l'ADEME, en 2009, mais c'était les premiers, donc ça a mis un petit peu de temps à se mettre en route. C'était 1,5 million d'euros de budget, donc on avait trois partenaires, donc SRD, le CEA, et puis également un producteur qui s'appelle Séchamps Environnement. Voilà. Et donc il y avait trois volets complémentaires, je vais en développer qu'un, mais le premier c'était réguler la basse tension avec stockage de batterie. Le second c'était faciliter la pénétration des ENR en pilotant on va dire leur complémentarité et surtout en faisant de la commandabilité du GRD vers les producteurs. Bon, ce qui est un petit peu difficile à entendre parfois pour les producteurs, mais qui va pourtant dans le sens de leur intérêt. Et c'est des choses qu'aujourd'hui on propose pour faciliter certains raccordements. Sur le volet 1, donc, en fait, on a voulu tester la pertinence d'outils de stockage pour toujours répondre à la problématique de la tension générée par les productions intermittentes sur le réseau BT. Donc on a un petit peu contraint le réseau. Alors la première expérimentation que je vous ai indiquée, ça se passait à Chaunay, donc dans la Vienne. Là, c'est à Husson du Poitou. Et donc, en fait, on a équipé de compteurs communicants le hameau. On a également instrumenté pour effectivement constater les variations de tension. Et puis, vous avez un gros producteur photovoltaïque ici de 120 kVA. Et donc, le transformateur qui alimente le hameau est situé ici. Voilà. Donc, l'idée, c'était de rajouter un stockage sur le réseau basse tension. Donc, vous avez ici la production qui montait. Voilà. Donc, ça, c'est la courbe de production. Et puis, vous avez ici en bleu l'évolution de la tension. Vous voyez que la tension elle augmente quand la production arrive. Alors avec un seuil ici qu'on a fixé au maximum de 6%, mais dans la réalité on a le droit de monter à 10%. Et donc là l'idée c'était dès l'instant qu'on atteignait 4% de hausse, donc dès que la courbe de variation de tension atteignait les plus 4, eh bien on commençait à stocker. Et donc on a comme ça écrété toute la production qui est voilà, donc ça a permis de dimensionner la batterie, qui était une batterie donc de 66 kVA et de 150 kWh. Et donc l'EMS, donc le système de management de la tension a été mis au point par le CEA. Ça a été un peu, d'ailleurs, ça n'a pas été simple. Et donc on a testé différentes stratégies de stockage, donc un asservissement simple uniquement à cette variation de tension, mais également des asservissements intelligents, parce qu'on voit bien qu'on peut imaginer, quand on a rempli la batterie, on va la décharger le soir même, mais on peut très bien se poser la question, quand est-ce qu'on déclenche la charge si, par exemple, la batterie n'a pas été complètement vidée. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire de cette expérimentation, alors la batterie, c'était ça, c'était un conteneur. Je pense d'ailleurs, c'est pas impossible que ce soit une des premières batteries posées en France. Hein. Ce qu'on peut dire, c'est que ça fonctionne bien pour réguler la tension. Ça permet aussi une gestion unifiée par le GRD de la contrainte, même fort quand il y a plusieurs sources éventuellement. C'était aussi une volonté de démontrer que ça avait aussi du sens que le GRD fasse du stockage. Puisque dans les directives européennes, notamment dans le prochain paquet, il semblerait que les gestionnaires de réseau, on leur interdise la possibilité de stocker. Alors vous voyez que pour nous, la régulation de la tension, il me semble que ça fait bien partie de notre métier. Mais il y a un vrai risque. Et surtout, on pense qu'en le confiant au GRD, c'est plus optimal pour le collectif que d'imaginer que chaque personne ait son propre stockage. En ayant un stockage collectif, finalement, on foisonne davantage. Et il n'y a pas besoin de surdimensionner le stockage. Voilà, donc c'était ça l'idée. Par contre, à ce stade, alors même si on va rester en veille, ce n'est pas viable encore aujourd'hui économiquement. Les coûts d'exploitation d'une telle batterie ne sont pas intéressants. Voilà. Bon, c'était pour vous donner un aperçu de solutions concrètes qui ont été testées. Ensuite, bon, aujourd'hui, on fait également autre chose, mais on peut en parler si vous le voulez. Merci.
S'il y a des questions, c'est à vous.
Oui, bonsoir. Une question, vous avez évoqué, peut-être un peu tous les trois, la communication que vous pouviez avoir vers les producteurs d'énergie renouvelable. En particulier, quand vous risquez d'avoir des pointes de tension trop importantes, est-ce que la communication, c'est aussi de dire ou de déclencher vous-même en bloquant le producteur pendant un certain temps pour éviter, et donc en diminuant la puissance qu'il émet, et donc en diminuant aussi ses ressources financières liées à l'énergie renouvelable? Est-ce que ça, c'est un moyen à envisager, quoi?
Oui, bah c'est même, on le fait déjà. On le fait, pour tout vous dire. Alors bon, d'abord, il y a des dispositifs de protection qui font qu'on peut demander à un producteur de se découpler parce que il y a un défaut sur le réseau et il ne faut pas qu'il alimente le réseau. Donc déjà, il y a des dispositifs pour effectivement découpler de manière automatique. Et après, on le renclenche après autorisation, etc. Bon, il y a déjà des échanges en la matière. La difficulté qu'on a aujourd'hui, quand on a, en fait... des problèmes de capacité, notamment amont, au niveau du réseau de transport. On n'a pas forcément de problème, nous, au niveau de notre poste source ou au niveau du réseau pour raccorder le producteur. Et donc, ce qu'on sait, c'est que, par exemple, RTE va mettre un certain temps pour renforcer son réseau, 3-4 ans. Et donc, ce qu'on peut proposer, alors moi aussi, mais bon, on a quand même, nous, un petit peu de temps aussi pour faire nos travaux. Ce qu'on peut leur proposer aujourd'hui, c'est de leur dire, on va vous raccorder. Par contre, aujourd'hui, on a limité le cumul des productions renouvelables qui sont raccordées sur nos postes sources. On prend en fait la puissance maximale de chacune des productions. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on sait très bien qu'on n'est pas en permanence à la puissance maximale. Donc on autorise un autre producteur à venir injecter. Par contre, on l'informe qu'à un moment donné, on risque de le découpler ou de le brider. Si finalement les producteurs qui sont déjà installés produisent au maximum de leur capacité. Voilà. Donc on l'informe, on fait un calcul, on est capable de lui dire a priori avec l'historique qu'on a, on va vous effacer 50 heures, on va vous brider 50 heures dans l'année. Et pour lui, aujourd'hui, ça peut quand même être intéressant de démarrer comme ça sa production parce qu'il sait que ça ne va pas durer éternellement. Et aujourd'hui, plus il démarre tôt sa production, plus son tarif de rachat est important. Il sait que s'il se raccorde un ou deux ou trois ans après, ben, son tarif va baisser. Donc ça peut être plus intéressant pour lui effectivement d'accepter cette solution-là. Par contre, on voit que ce n'est pas forcément une solution facile, puisqu'on peut le faire pour un. Par contre, si on en rajoute un deuxième ou un troisième, à chaque fois qu'on en rajoute un, est-ce qu'on fait partager la contrainte aux deux ou aux trois, ou à ceux qu'on a déjà raccordés, à qui on n'a jamais effectivement envisagé de bridage? Donc c'est un sujet un peu complexe qui mériterait que la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, sur laquelle la CRE devrait se pencher. Parce qu'effectivement, nous, notre rôle en tant que gestion de réseau, c'est de ne pas créer de discrimination pour tous les utilisateurs de réseau. Et donc, on n'imagine pas créer des discriminations entre des producteurs. Ça ne me semble pas acceptable. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ouais.
Oui, je vais bien compléter la question, d'ailleurs, par rapport à EDF, parce que tout à l'heure, vous avez parlé dans les pistes de moduler la puissance. Donc, est-ce que c'est la même chose? Et puis, j'ai une autre question tout à l'heure sur les compteurs communicants. Vous avez parlé d'un objectif de 780 millions au niveau de l'Europe. Et puis, vous avez parlé de 34 millions de compteurs au niveau de la France. Donc, quand je fais le compte du nombre d'habitants dans l'Europe, je n'arrive pas à 780 millions de compteurs. Donc, j'ai une vraie interrogation par rapport à ces chiffres.
C'est le 34 fois 16 qui ferait pas...
C'est-à-dire qu'on est 66 millions d'habitants, 34 millions de compteurs, ça fait un pour deux. Il y a un peu plus de 500 millions d'habitants, je crois, au niveau de l'Europe. Donc comment on passe à 780 millions de compteurs, ça veut dire qu'il y aurait, dans les autres pays européens, deux fois plus de compteurs communicants que chez nous.
Ce sont des chiffres consolidés. Alors je n'ai plus en tête la source de données, mais enfin c'est une source, on va dire, officielle. Je reviendrai à la première question après. Je vous avoue que je n'en ai pas l'origine précise. Enfin, je ne pense pas que ce soit une erreur. Une explication qui est envisageable, c'est que certains pays appliquent des dispositifs de comptage de façon plus large que ce qu'on peut pratiquer en France. C'est-à-dire qu'en France, un certain nombre d'usages ne sont pas systématiquement comptés. On peut appliquer des systèmes dits forfaitaires. En fait, on se focalise là sur les 34 millions de foyers. Après, ça dépend aussi de la composition des foyers. Mais enfin, je pense que le chiffre, enfin, je pourrais le vérifier, mais vu qu'il est quand même relativement précis, ce peut s'expliquer par ce type de raison. Mais effectivement, on est sur un potentiel sur ces pays autour de ces 780 millions. Je suis désolé, je ne peux pas vous répondre plus précisément. Sur la première question, effectivement, on a des solutions technologiques intelligentes du même type que effectivement ce que SRD a testé et implémenté et présenté ce soir. Donc des possibilités de bridage de production raccordée au réseau de distribution sur les parties de réseau opérées par Enedis, avec des propositions qui ont été d'ailleurs avancées devant le régulateur, donc la Commission de régulation de l'énergie et les représentants des producteurs, pour construire un cadre contractuel qui permette effectivement de poser les règles d'attribution des contraintes, enfin donc des limitations de puissance et de bridage entre les acteurs d'une zone donnée. La CRE, lors de la présentation d'ailleurs par Enedis et l'association des distributeurs français d'électricité, la REF, fait un commentaire positif par rapport à cette proposition formulée par le rapporteur, en l'occurrence sa porte-parole Enedis, pour ce dispositif qui s'appellerait, selon l'acronyme de la CRE, offre de raccordement alternative. Donc ça permettrait effectivement une sorte d'accord gagnant-gagnant entre le gestionnaire de réseau et le gestionnaire et le propriétaire d'un site de production. L'idée étant de dire peut-être vaut-il mieux ne pas surinvestir sur le réseau, donc limiter le développement du réseau, pour vous permettre de produire une très grande majorité du temps, et vous pourrez peut-être 50 heures ou 100 heures sur les 8760 heures de l'année, évidemment avoir ce risque d'être bridé. Donc c'est un peu limiter l'investissement et donc la facture de raccordement réseau versus un moindre bénéfice de production pour le producteur, mais quand même somme toute limité dans le temps. Il faut savoir que dans des pays où il y a une pénétration très forte des énergies renouvelables, comme l'Allemagne, dans le nord du pays, ces dispositifs ont été très largement répandus, mais de façon même, on peut dire, un peu plus autoritaire. C'est-à-dire qu'il y a carrément ce qu'on appelle du curtailment, où passer un niveau de production agrégé sur une région de, par exemple, de, je dis n'importe quoi, 10%, tous les producteurs sont bridés de façon systématique et automatisée. Mais il faut voir qu'au fur et à mesure que la pénétration des ENR va progresser en France, nous allons progressivement aller vers ce type de dispositif. Je peux citer aussi ce qui se passe dans les réseaux insulaires, dans les DOM-TOM, où pour des raisons, non pas cette fois-ci de contraintes, de tensions ou de transit sur le réseau, mais pour des problématiques de stabilité de réseau, puisqu'on a affaire à des petits réseaux, enfin, c'est en gros, c'est même pas l'échelle d'un département français métropolitain, pour des problèmes de stabilité de réseau, il y a une règle finalement validée par la CRE qui consiste à brider à hauteur de 30% l'agrégé de production renouvelable sur le réseau insulaire de DOM-TOM. Donc c'est une règle qui s'applique. Donc au niveau de EDF R&D, nous menons des études assez poussées pour relever ce seuil, moyennant des conditions techniques très précises qui sont très élaborées, qui concernent aussi des sujets assez importants, puisque l'enjeu étant d'éviter un blackout sur un système électrique, c'est pas anodin. Donc il y a une priorité, c'est d'éviter le blackout, mais on travaille sur des solutions techniques assez poussées pour effectivement passer au-dessus de ce seuil de 30%. Voilà.
Juste pour compléter, peut-être, effectivement, le verrou actuellement dans la recherche de management et de modulation de la puissance injectée sur le réseau, pour des raisons de stabilité, aussi bien en fréquence qu'en tension, sont actuellement, expérimentalement, on est à 30%, mais effectivement, au-delà, dans l'immédiat, même en simulation en grandeur nature, on a du mal à imaginer une injection au-delà de 35% qui paraît être le seuil haut, enfin la barre haute. Et après, ça ne permet pas de garantir une stabilité suffisante du réseau due à l'intermittence et aux fluctuations des énergies renouvelables. Donc ça reste un verrou technologique et scientifique important de pénétration.
Que globalement, les ENR, c'est quand même plus de réseaux. Même si on a quand même des réseaux robustes qui font que, notamment par rapport à certains pays étrangers, on a quand même une capacité à encaisser et à pouvoir accueillir quand même beaucoup plus d'ENR que... je suis allé voir aux États-Unis, par exemple, c'était quand même calamiteux. Donc, pour le coup, on peut être fier, surtout qu'ils présentent les OMT que je vous ai présentés. J'ai visité un showroom magnifique. Ils étaient très fiers de nous montrer qu'ils avaient mis des OMT sur leur réseau depuis quelques mois, alors que ça fait 30 ans qu'on le fait en France. Donc on a la chance d'avoir quand même une calibration de nos réseaux qui permet quand même d'accepter, d'accueillir beaucoup d'ENR. Après, par rapport à ces questions d'accueil des producteurs, il ne faut pas oublier qu'on a quand même un dialogue avec eux. C'est-à-dire que si quelqu'un vient nous voir en disant « je perds un parc éolien de 11 MW » et puis on lui dit « mais c'est peut-être dommage parce qu'à 10, on est capable de le faire tout de suite sans contrainte, alors qu'à 11, il faut peut-être attendre 5 ans », on en parle avec lui pour effectivement pouvoir permettre cette insertion. L'idée, c'est effectivement de remplir au maximum les capacités d'accueil là où elles sont. La problématique aujourd'hui, c'est plutôt qu'on a des productions qui se concentrent dans des zones qui sont déjà saturées parfois, alors qu'il y a plein de places ailleurs. Voilà. Ça, c'est la difficulté.
Bonsoir. Quatre points que je ne comprends pas bien sur l'intervention précédente de Robert qui avait le micro. 34 millions de compteurs Linky à installer. En France, il y a 36 millions d'habitations, 32 millions de résidences principales et 4 millions de secondaires. Donc pourquoi il n'y a pas que les habitations qui seraient avec des compteurs. Il y a aussi les artisans, les PME, les commerces, etc. Ça fait bon. Est-ce que les grosses entreprises n'ont pas de compteur Linky ? Et au niveau européen, effectivement, 780 millions, ça fait beaucoup par rapport à la population. Mais j'ai cru comprendre lors d'une autre intervention sur les compteurs Linky que l'enjeu n'était pas spécialement l'intelligence en France des compteurs, mais de le vendre dans beaucoup de pays. Alors c'est peut-être que dans ces 780 millions de compteurs, c'est l'objectif d'installation du style compteur Linky dans plein d'autres pays autres que l'Union européenne. Mais bon. Deuxième chose que je ne comprends pas bien, c'est pourquoi on utilise des mots anglais pour une entreprise française, smart grids, smart charging, etc. Bon, bah, peut-être que smart, ça fait cool, mais j'ai du mal à saisir. Il faudra que je regarde dans le dictionnaire ce que ça veut dire, parce que je n'aimais pas beaucoup mes profs d'anglais. J'aimais d'autres profs de langue, mais pas cela. Troisième chose que je ne comprends pas bien, c'est pourquoi les petits producteurs seraient, comme vous dites, bridés. Et dans ce cas-là, pourquoi pas brider la centrale nucléaire ?
Ben, le bridage pourquoi n'est pas proposé aux petits producteurs. Le bridage, il est proposé aux gros producteurs.
Ah bon ? Oui. Ouais. Parce que vous avez quand même été balèze, fortiche, pour faire une heure et demie d'intervention sur l'énergie électrique, sans parler du nucléaire. Et c'est un peu surprenant d'insister sur l'enjeu décarboné, etc., parce que le fait de parler de décarboné, ça évite de parler du nucléaire. Et voilà. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi en Allemagne, par exemple, dans la diapo que vous avez présentée, monsieur Le Merle, il y a un déploiement très très limité des compteurs, c'est la troisième catégorie, alors que l'Allemagne a un mix énergétique à base de charbon, de nucléaire pour quelque temps encore, et d'énergie renouvelable. Et puis la dernière chose que je ne comprends pas, monsieur Gobert, vous dites qu'on ne pourrait pas passer à plus de 35% d'énergie renouvelable dans le réseau, alors qu'il y a des pays en Europe qui sont à plus de 50%, donc... ils n'ont pas de technologie, eux, ou ils se débrouillent autrement ?
Je propose de répondre aux premières questions. Alors, sur les 34 millions cités, on est sur une typologie de compteurs. Donc, ça ne correspond pas exactement à des segments de clientèle. On est, on va dire, sur des compteurs d'un certain niveau de puissance. Donc, alors, dans le jargon des électriciens, ça s'appelle les compteurs dits C5 ou P5 pour les producteurs, puisque le compteur communicant permet évidemment de compter dans les deux sens, notamment, et c'est aussi une des avancées du compteur Linky, pour la production et la consommation cumulée sur un même compteur. Les 34 millions couvrent en fait les foyers et les petits entrepreneurs dits qui peuvent être des clients 10 et 5, hein, donc un certain nombre de clients, notamment professionnels. Passer un seuil de puissance, on tombe dans d'autres technologies de compteurs plus avancées, avec beaucoup plus d'informations échangées. Et il y a, alors on en parle moins, mais il y a des projets de modernisation des parcs de comptage dits industriels, hein, ou hauts de portefeuille, qui sont déjà bien avancés, voire terminés pour certains types de compteurs. Donc Enedis a engagé et est en train de terminer le déploiement de compteurs communicants de nouvelle génération. On est plutôt sur la deuxième génération de compteurs communicants. Ça fait une bonne quinzaine d'années que le segment entreprise, les compteurs communiquent avec des technologies différentes. Et donc là, on est en train côté Enedis, de déployer cette deuxième génération. Donc en France, tous les segments de clientèle et de compteurs sont en fait traités par du déploiement de compteurs communicants. Sur les 780, je suis désolé, j'ai pas le décompte pays par pays, je pourrais essayer de le trouver. Donc ça n'est en aucun cas un potentiel ou un prospect commercial. C'est vraiment les objectifs que chacun des pays doivent décliner en application de cette décision européenne d'équiper 80% des compteurs des foyers d'ici l'horizon 2020. Il y a effectivement des industriels dont Itron, pas loin d'ici, qui travaillent avec des gestionnaires de réseau pour vendre des solutions techniques, parfois inspirées de l'offre d'Ilinky, mais parfois d'autres produits dans des plans de déploiement, que ce soit en Europe ou à travers le monde. La finalité du projet Linky n'est pas évidemment d'aller vendre des produits à l'étranger. S'il y a des opportunités d'affaires et de ventes, pourquoi pas, mais en fait, la priorité, c'est d'appliquer une réglementation qui s'impose à tous les pays de l'Europe. Et pour parler de l'Allemagne, alors l'Allemagne, effectivement, a pris du retard dans le déploiement. Elle est en train de le combler à marche forcée, notamment les grands distributeurs. Hein, vous savez qu'il y a aussi des régies à taille modeste en Allemagne. Je crois qu'il y a plus de 300 Stadtwerke en Allemagne. Mais les grands distributeurs, par exemple, si je prends E.ON, qui en est le plus grand, s'engagent de façon très résolue en ce moment même dans dans un plan de déploiement de compteurs communicants. Ils ont effectivement un petit peu observé ce qui se passait en Europe, mais maintenant ils ont pris conscience du fait que, au-delà du fait qu'il y a une obligation réglementaire, qu'il y a un intérêt pour le fonctionnement du marché de l'électricité notamment, et pour opérer des réseaux plus intelligents, puisque la traduction littérale du mot smart est intelligent en français. Je pense que je vais pas monopoliser toutes les réponses.
La dernière question, Monsieur Gobert. Non, je suis d'accord avec vous. Moi aussi, je suis très gêné d'employer le mot smart grid, mais en fait, c'est celui qui a été développé et utilisé par probablement les communicants, mais aussi par les fabricants de matériel. Hein, parce que quand je dis il y a 7-8 ans, c'était la révolution. Aujourd'hui, on en parle un petit peu moins. On s'est aperçu qu'en fait, c'est pas que la mesure qui compte. Vous l'avez vu, c'est plutôt la simulation et l'intelligence. Elle est plutôt dans les systèmes, hein, mais elle reste à la main des hommes, heureusement. Mais c'est vrai qu'il faut prendre un peu de recul par rapport à ça. Il y avait un engouement qui est certainement excessif, qui a été même jusqu'à proposer n'importe quoi aux gestionnaires de réseau, hein, parce que nous, on nous a proposé, enfin, il y a notamment les fabricants de matériel qui voyaient là vraiment la poule aux œufs d'or. On allait vendre aux ministres des milliers d'emplois, etc. Et c'est vrai, mais on nous a proposé par exemple de surveiller la température de tous les transformateurs achetés à BT. Bon, clairement. Pour moi, c'est inutile, hein, parce que des transformateurs, on en claque à peu près 20 par an. Et si on devait instrumenter tous les transformateurs, ça coûterait beaucoup, beaucoup plus cher que de remplacer 20 transformateurs qui tombent en panne dans l'année, qui sont défaillants. Voilà. Sans compter que mesurer la température, c'est faire un trou dans la cuve, et c'est fragiliser le transformateur et c'est s'exposer à avoir beaucoup plus de panne qu'on en a aujourd'hui. Donc, voilà, il s'est dit... Enfin, ça a couvert beaucoup de choses, ce terme smart grid, mais c'était à la fois inapproprié et un peu excessif. Je suis d'accord avec vous.
Oui, juste pour rebondir, effectivement, le smart grid, ça a été un peu galvaudé, puisqu'on a mis un peu tout derrière ce mot. Et effectivement, ça voudrait dire aussi que rien n'était intelligent auparavant, et tout à coup, tout est devenu intelligent. Donc, c'est quand même pas une révolution à ce point-là. Et puis, il n'y a pas eu une rupture à ce point-là, où on est passé d'un système, je dirais, archaïque à un système intelligent. La transition, elle était quand même sur des décennies, et c'est pas aussi intelligent en instantané, en tout cas. Alors pour revenir sur le taux de pénétration, en fait, il faut voir ce qu'on met derrière et qu'est-ce qu'on met dans les pourcentages d'intégration, parce qu'il y a une donnée qui est une donnée globale, qui est une répartition. Est-ce que c'est une donnée qui est lissée sur une répartition générale sur une année, ou est-ce que c'est un instantané? Donc les 30%, les 35% ou les 50%, il faut voir ce que c'est, si c'est de la puissance, si c'est de l'énergie. Il y a un problème quand même qui est lié de toute manière à une problématique technique de réglementation et de risque qu'on prend. Pourquoi ? Ben parce que, pour être un peu plus précis, dans les énergies renouvelables, la plupart de ces énergies, l'interfaçage, ce n'est pas, il n'y a pas d'inertie, comme sur un générateur dans un système centralisé de production d'énergie. Vous avez une machine, donc il y a une inertie très importante, un pouvoir de court-circuit important. Dans tout ce qui est interfaçage des énergies renouvelables, vous avez ce qu'on appelle des convertisseurs d'électronique de puissance. Ces convertisseurs d'électronique de puissance n'ont pas d'inertie, c'est-à-dire qu'au moindre défaut, le système déclenche, saute ou grille. Et donc, du coup, vous prenez... si vous avez alors si vous dites 50%, effectivement, on arrive à faire du 50%. Si vous prenez un système ilien à La Réunion, à la Martinique, vous êtes parfois bien au-delà de 50% de production d'énergie renouvelable. Mais ça, c'est en puissance, en instantané. Mais si vous faites généraliser sur une donnée mensuelle, annuelle, effectivement, vous ne pouvez pas vous permettre de prendre autant de risques sur des périodes aussi longues, quoi. Donc, Alors, quand on parle de 50%, on peut y arriver, mais on ne peut pas y arriver en permanence, parce que ça veut dire que si vous êtes à ce niveau-là, vous ne pouvez pas tenir le plan de tension, vous ne pouvez pas tenir le plan de fréquence, et vous acceptez, dans ce cas-là, des fluctuations assez importantes. Typiquement, à La Réunion ou n'importe, vous avez des fréquences qui chutent de plusieurs Hz, parce que ben, c'est un réseau qui est infiniment faible par rapport à nos réseaux terrestres qu'on connaît dans un continent.
Je suis surpris, mais je suis désolé de réintervenir, mais je ne comprends pas ce raisonnement. Alors qu'il y a, y compris des organismes officiels tels que l'ADEME ou d'autres organismes qui sont moins officiels, mais qui néanmoins sont sérieux, qui est le scénario négawatt, qui disent clairement qu'en 2050, on peut être autonome en France en énergie renouvelable à 100%. Donc, je veux dire, alors ça veut dire que ces organismes racontent n'importe quoi ? C'est ça que ça veut dire ? C'est ça que vous êtes en train de dire ?
Non, je ne dis pas qu'ils racontent n'importe quoi. Je veux dire qu'à partir du moment, si on veut assurer la continuité du service, la stabilité du service et alimenter en permanence de façon, je dirais, fiable l'ensemble d'une population, ça veut dire que quand vous parlez d'autonomie, ça veut dire qu'au niveau d'un foyer, avez un dimensionnement optimal...
Et ça veut dire qu'il y a des moyens de stockage qui peuvent être... vous avez parlé de stockage tout à l'heure, de batteries, etc. Ça veut dire que ces systèmes de stockage, ils peuvent être organisés pour justement fournir l'énergie au moment où énergies donc, photovoltaïques ou éoliennes ne sont pas là.
Techniquement, je suis d'accord qu'on a des solutions pour faire du bâtiment autonome ou une résidence autonome.
On ne parle pas de bâtiment autonome, on parle de... les questions, c'est au niveau des territoires, au niveau du territoire français, je veux dire. Je tombe du pactage en entendant ça, si vous voulez. Je ne comprends pas.
Les débats entre tous les acteurs de la transition énergétique, de toute façon, les débats ne sont pas clos. Les sujets qu'on évoque autour de ces sujets d'inertie des réseaux face à des aléas d'intermittence de production sont des sujets qui commencent à émerger. Mais leur caractérisation est loin d'avoir été partagée techniquement et largement. Ce sont des sujets d'ailleurs assez complexes à appréhender. Effectivement, on s'appuie beaucoup sur les expériences iliennes, puisque effectivement, on a des terrains un petit peu d'observation de taille suffisante, parce qu'on parlait tout à l'heure des microgrids. Il n'est pas question de comparer un microgrid qui va fédérer peut-être une centaine de maisons avec un réseau insulaire à la taille, par exemple, de l'Irlande, où bien que l'Irlande soit interconnectée de toute façon avec d'autres îles comme l'Angleterre, donc on ne parle pas du même type de réseau. Donc il faut à chaque fois regarder de près de quoi on parle. Est-ce qu'on est sur un réseau complètement insulaire, complètement déconnecté du reste ? Est-ce qu'on est sur des réseaux interconnectés par quelques liaisons entre les îles ? Donc à chaque fois, on est sur des tailles différentes, sur des terrains d'observation. Donc c'est pour ça que, d'ailleurs, l'établissement de règles aussi simple que X% est très difficile. D'ailleurs, même entre les différentes îles opérées par Système électrique insulaire, qui est la division de DEF qui gère les dom-toms, les niveaux ne sont pas stricto sensu les mêmes. Donc il y a des aménagements qui ont été faits parce que des études plus poussées ont permis de déterminer que dans telle période de l'année, on pouvait aller plus loin que 30%, ça pouvait être 35%. Et d'ailleurs, EDF travaille d'arrache-pied pour augmenter ses seuils, parce qu'on a bien conscience du fait que la pénétration des ENR dans les dom-toms est un plus environnemental. Ces énergies étant extrêmement carbonées dans les dom-toms. Après, quand on regarde sur le réseau interconnecté européen, effectivement, on n'est pas du tout sur la même échelle. Si on prend ces ratios, les problématiques de fréquence sont appréhendées à la maille de l'ensemble de la plaque territoriale, ce qu'on appelle l'UCTE. Donc c'est Europe de l'Ouest, Europe de l'Est, tout confondu. Donc se projeter dans des seuils de 30% à la maille UCTE, on en est encore très loin. Donc c'est les questions On peut dire, oui, un pays a atteint et a dépassé des seuils de plusieurs dizaines de pourcents en termes de NR, mais la question technologique ne concerne pas le seul pays, elle concerne l'ensemble de la plaque européenne, avec les risques aussi de découpage d'un certain nombre de zones, puisqu'il y a des mesures de sauvegarde entre un certain nombre de groupes de pays pour préserver, et ça, ce sont les gestionnaires de transport qui les décident. Donc il y a beaucoup de règles opérées par les transporteurs, et ce sont eux qui sont avant tout les parties prenantes à écouter sur ces questions de stabilité de réseau. Ils sont fédérés, ils sont contrôlés par une association des régulateurs européens, et ils sont extrêmement aussi présents sur ces sujets. Donc, effectivement, quand les acteurs se prononcent sur on peut faire 100% de NR, en fait, il faut après regarder la question sous l'ensemble des problématiques. Il y a des problématiques économiques, des problématiques environnementales, des problématiques technologiques. Voilà, donc chacun va avancer un petit peu ses arguments et on travaille tous ensemble pour effectivement s'écouter et prendre en compte l'ensemble de ces problématiques. Il n'y a pas une seule réponse à un problème donné.
Et pour compléter, je pense donner un exemple. Il y a sûrement des parades, mais qu'il faut développer. Et par rapport à un système existant, ce n'est pas forcément simple. Typiquement, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le délestage fréquence métrique. C'est-à-dire que si un jour, il y a des problèmes de production, la fréquence va baisser. Et donc, on va délester, nous, des départs, moyenne tension, on va couper des départs pour baisser la consommation. De sorte que s'il y a moins de consommation, la production va s'équilibrer et on va pouvoir maintenir la fréquence. Ce qui se passe, par exemple, avec les premières installations photovoltaïques qui ont été posées, on leur a demandé de pouvoir se découpler à 50,2 Hz. Comme ça, s'il y avait un défaut, on les découple et puis ils s'isolent du réseau. Le problème, c'est qu'on voit que dans ces cas-là, si on a aujourd'hui un problème de fréquence, non seulement donc nous, la première réaction, c'est de couper des consommations, mais dans l'absolu, s'il y a de la grosse production qui sort, il faudrait maintenir la petite production. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'avec les dispositifs qui ont été envisagés au début du déploiement des productions, par exemple photovoltaïques, ben, en fait, on prend le risque de découpler toutes les productions photovoltaïques, ce qui fait que ça va faire baisser encore plus la production et ça ne va pas la soutenir. Et donc, en fait, par exemple, dernièrement, les seuils ont été demandés à ce qu'on passe à 50,4 et 50,6. Donc, on est aujourd'hui en train de trouver des parades et c'est notamment apparu en Allemagne et au niveau européen, il y avait même une question, c'est que ce qui se passait en Allemagne pouvait entraîner en domino un blackout sur toute l'Europe. Voilà. Donc c'est des questions comme ça qu'il faut encore régler. Mais bon, vous voyez, les gens y regardent et on modifie les seuils en conséquence pour prévenir. Et il faut qu'on réfléchisse à d'autres formes de stabilité du réseau, c'est clair. Mais c'est vrai que il y a quand même aujourd'hui des seuils qui sont liés au fait que aujourd'hui rien ne vaut une machine tournante pour assurer la fréquence, quoi. C'est vrai. Mais ça, bon, une centrale nucléaire, ça peut être un barrage. Hein. Voilà. C'est pas forcément. On peut quand même y arriver avec aussi du renouvelable. Je sais pas si j'ai répondu.
Une dernière question.
Bonsoir. Pour les lignes électriques, autrement, est-ce qu'il serait possible qu'elles soient enterrées ? Il y aurait plus de lignes enterrées.
Voilà. Dans la Vienne, on était, quand je suis rentré à la régie, en 1994, on était à près de 0%, on est rendu à 30%. Mais vous avez vu, on a un réseau qui est très étendu. Hein. On enfouit 500 mètres par jour. Donc c'est pas rien quand même. Voilà. Et donc ça répond à une problématique aussi climatique, hein, parce qu'on a des réseaux qui sont exposés, et donc ça c'est exposé aux tempêtes, hein, donc qui sont de plus en plus fréquentes. Donc on a intérêt à aller vers cet enfouissement-là, mais ce n'est pas non plus sans poser des problèmes. C'est-à-dire que lorsque vous avez des réseaux aériens, on a ce qu'on appelle un régime à neutre impédant qui permet de détecter les défauts et d'ouvrir le départ HTA quand il y a un défaut, parce qu'il faut toujours imaginer que ça peut être quelqu'un qui peut être sur ce réseau. Et donc quand on arrive à un certain niveau d'enfouissement de réseau, eh ben, on ne peut plus voir ces défauts, donc il faut changer le régime du nôtre, c'est ce qu'on est en train de terminer. Mais même avec ce changement de régime, hein, qu'on appelle le nôtre compensé, on sait aussi qu'à un moment donné, on n'y arrivera plus. Voilà. Donc on ne s'est pas passé de, j'ai envie de dire, de 60% à 100% d'un seul coup. Ça supposera de créer de nouveaux postes sources, voilà, c'est pas rien. Mais voilà. Maintenant, on enfouit les réseaux au rythme que nos conditions économiques nous permettent. Et on est quand même aujourd'hui à 500 mètres par jour, on progresse. Mais voilà. Tous les réseaux qu'on construit à 95%, et c'est commun à tous les GRD, hein, c'est du souterrain. Voilà.
Oui, en production hydraulique, autrement, est-ce, vous ne pensez pas développer plus la production ?
Dans la Vienne, là,
tout ce qui est barrage, oui.
Dans la Vienne, c'est assez compliqué.
Sur l'ensemble du pays, quoi.
Alors, l'ensemble du pays, il y a une volonté ministérielle, mais c'est quand même pas forcément très simple.
L'hydraulique fait partie des ENR qui ont plus, dans la grande majorité des cas, l'avantage d'être pilotable ou dispatchable par rapport à des énergies type éolienne ou photovoltaïque. Il y a une équation aujourd'hui, il y a un petit peu plus compliquée, un peu conjoncturelle, qui est qu'aujourd'hui la rentabilité globale des projets d'investissement hydraulique devient de plus en plus difficile à atteindre. Il y a un certain nombre de facteurs qui font que les prix aujourd'hui auxquels peuvent prétendre les prix de vente auxquels peuvent prétendre les centrales hydrauliques ont sensiblement baissé, et les investissements hydrauliques étant envisagés sur des périodes d'au moins 40 ans, effectivement il faut à la fois de la visibilité et au moins une assurance au moins au démarrage du projet que les prix correspondent aux exigences de rentabilité qui sont pas pléthoriques hein, mais qui sont je dirais d'un investissement plutôt typé mission de service public, hein, donc avec des rentabilités modestes. Mais ces rentabilités sont aujourd'hui, compte tenu des exigences de sûreté en termes de fabrication, enfin de construction et d'exigences environnementales aussi qui pèsent, assez difficiles à trouver. Donc l'investissement en France, hydraulique, qu'il soit initié par des gestionnaires de réseau, par des utilities historiques ou par des opérateurs privés, effectivement, baisse sensiblement. On peut que le déplorer, hein, mais c'est effectivement les conditions économiques sont délicates en ce moment.
Dans les faits, développer un barrage, par exemple, ou un seuil, c'est 5 ans d'études avec une probabilité forte d'échec. Donc ça, aujourd'hui, ça dissuade beaucoup les hydrauliciens classiques. Ce qui se passe, l'expérience qu'on en a au niveau de Sorégie, qui a aussi une filiale dans le domaine, c'est qu'on rachète des seuils et puis des installations et on les modernise pour augmenter leur capacité. Parce que quand même, il y a eu des progrès en matière de turbines, etc. Donc on peut augmenter leur capacité de production. Voilà, donc aujourd'hui, ça se passe comme ça. Alors maintenant, il est vrai aussi, néanmoins, que le changement climatique fait qu'on annonce quand même des productions hydrauliques moindres que par le passé. Hein. On dit que dans les 30 prochaines années, la Garonne va diviser par deux son débit, quoi, par exemple. Donc, voilà, donc même si on augmente les capacités, s'il n'y a plus de débit, on aura quand même pas forcément une augmentation de la production hydraulique.
Juste quand même, ça peut être une alternative sur les STEP, c'est-à-dire les systèmes de pompage de stockage, parce qu'effectivement, c'est un excellent moyen de stockage. Et les Suisses l'utilisent de façon très, très abondante et adéquate, puisqu'ils ont des systèmes de pompage qui tournent lorsqu'il y a un excédent d'énergie, notamment éolienne, chez leurs voisins allemands. Et donc, ils font du pompage et de la restitution. Bon. Mais par contre, il faut avoir aussi un coût, il faut avoir un relief, parce qu'effectivement, il faut avoir une différence de niveau entre le bassin haut et le bassin bas. Mais par contre, ça reste un excellent moyen de stockage et des systèmes. Donc c'est peut-être l'hydraulique a un avenir à ce niveau-là.
Au niveau des panneaux photovoltaïques, ils sont tous recyclés chez nous, toute notre production.
Alors, c'est pas du domaine du GRD, mais ce que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui, les premiers, il y a une filière qui existe, mais qui est relativement peu sollicitée, puisque les panneaux, ils étaient construits depuis 20 ans, on s'aperçoit qu'ils peuvent aller à 30, voire 35 et peut-être davantage. Et donc, aujourd'hui, on sait décomposer un panneau, on sait comment faire, mais aujourd'hui, ça coûte encore cher parce que ce n'est pas industrialisé, parce qu'il n'y a pas de matière à recycler, quoi. Mais quand ça viendra, on peut penser qu'effectivement, ce sera rentable de le faire, voilà, et que la filière fonctionnera. Mais en état actuel, c'est embryonnaire, effectivement. En fait, les panneaux qui sont recyclés, c'est les panneaux qui sont cassés. Hein, sur les parcs existants, voilà, y a parfois des panneaux qui sont cassés, donc ceux-là sont recyclés.
Bon, je suis désolée, mais vu l'heure, on va être obligé d'arrêter. Je vous remercie tous d'être venus, et puis à vous trois pour vos interventions et les réponses. Merci, bonne soirée.